lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ready ahead to Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away. Compassion and Jensen by Paul Resta. Challenging Sebastian Vettel now as we find a fourth down the rest of Potter towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle saison, nouvelle émission, nouveau générique du SAV de la F1. On est de retour, ça y est, pour la saison 2013. Je sais, ça fait longtemps que vous nous attendez, ça fait longtemps que nous aussi, on attend. N'est-ce pas, Dino?
Oui, c'est... Moi, j'étais pas pressé. J'avoue que j'étais bien dans ma petite grotte cet hiver en train d'hiberner. Ils me disent, oh, magnifique, il fait beau et tout. Et... Non, j'étais pas pressé de reprendre.
Et ce soir, pour reprendre, ben justement, deux habitués, Fab et Gus Gus. Bonsoir, messieurs.
Ça fait bistrot de campagne, deux habitués.
Bonsoir, Gus Gus. Une suze. Je suis alcoolique depuis 3 ans et j'ai envie de m'en sortir.
Et donc, il est péchu, ce nouveau générique. Allez, non, ça envoie, hein. Ça m'a mis dedans pour 2 heures.
D'ailleurs, j'espère que les auditeurs l'ont bien écouté parce que je n'en dis pas plus.
Ouais. Faudrait quand même que je file un indice, ouais. Hein, parce que tout seul, ça risque d'être hard.
Bon, les gens vont se démerder, ils ont 3 semaines, Shinji, c'est bon. Je peux déjà vous dire, ça sera l'objet de la question concours top position.
Ça ne marche pas avec Shazam.
Ah, t'as essayé.
Et moi?
Oui.
Non.
Ah bah peut-être que ça marche avec Shazam. Et donc, quant à vous, l'intersaison, bien passée, tranquille?
Ça commençait à durer, là, sur la fin. Là, j'avoue que...
Oh, non, ça va. J'aurais pu faire un mois de plus. Ça m'aurait pas dérangé, moi.
Et pourtant, il s'en est passé des choses, hein, ça. Mais ouais, on va y revenir. Messieurs, comme d'habitude, qui dit magazine, dit quiz, pour commencer.
Oui!
Ça ne change pas.
Ouais.
Mais ça change quand même. Hein, alors, il y a toujours un quiz, il faut le dire.
Tant mieux.
Mais cette fois-ci, plus question de animateur, chroniqueur. Non.
Bah, on s'est dit que c'était pas juste, j'ai dit, parce que vu la branlée qu'on leur a mis l'an dernier, ça aurait pas été honnête de leur remettre ça cette année, quoi. Il fallait leur donner des chances au moins.
Ouais, donc c'est quoi cette année? Il fallait interrompre ces gargares. Des gens qui se gargarisent.
De leur victoire, mais je te soutiens.
Ouais. C'est pas notre genre, monsieur.
Cette année, c'est du chacun pour sa gueule, il faut le dire.
Oh.
Oh, hein.
Bah, alors... C'est dommage pour vous, parce que l'année dernière, il me semble avoir compté.
Recompte.
Mais oui, mais vous étiez là plus souvent.
C'est vrai.
C'est pas faux. On aurait pu faire un système de points, mais comme justement tout le monde n'est pas forcément là à chaque émission, il aurait fallu faire des calculs compliqués. Que visiblement Fab il était motivé. Et nous, ouais. Nous on en s'en fout.
La pondération, mes amis. Ouais. La pondération.
Fab en ce moment est dans cette phase où il est motivé par des calculs complexes, des règlements,
des barèmes. Cet homme est fou.
Voilà. Donc pas de points non plus. Et vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi faire un quiz?
Et donc on s'est dit, on a été tellement pourris dans le gage de fin d'année l'année dernière que il faut pas attendre la fin de l'année, c'est inutile.
Oui. En effet, plus fort que le pouvoir du crâne ancestral, le gagnant du quiz gagnera le pouvoir du ta gueule.
C'est entre autres, hein, on peut imaginer qu'en cours de saison, on est marre de dire ta gueule mutuellement.
Oui, voilà. Hein.
Mais, donc, mais on va commencer par ta gueule.
Voilà, le pouvoir du ta gueule, donc le gagnant du quiz. À tout moment, pendant tout le reste de l'émission, enfin, à tout moment, une fois, on est bien d'accord.
Renouvelable pendant 3 heures, autant aller chercher à mort.
Voilà, à un moment, il pourra dire à quelqu'un, même si on pense beaucoup à une personne, mais ça ne sera pas forcément lui, d'ailleurs.
Putain, j'ai même pas le droit de lui dire ta gueule.
Et alors, voilà, le gagnant pourra dire ta gueule et la personne devra arrêter de se taire. C'est quand même...
Arrêtez de se taire.
Arrêtez de parler.
C'est incompréhensible, ce truc.
Ah, il y a finalement, du boulot, mais apparemment, quand même, pas trop.
Finalement, je préférais la pondération.
Ah, vous voyez? Mais d'habitude, il faut 2 émissions pour qu'on se rende compte de l'intérêt d'un système.
Ouais.
Donc, sur la prochaine, pondération et point.
Le gagnant, à n'importe quel moment de l'émission, pourra dire ta gueule à un des autres participants, et cette personne devra se taire.
Pendant 5 minutes.
Ouais, 5 minutes, c'est pas mal.
Tu voulais mettre combien après?
Jusqu'au changement de sujet, mais... Non.
Ah, jusqu'au changement de sujet, c'est vache.
Oui, non, mais... Ouais,
c'est dur pour Dino, là.
Oui, non, 5 minutes, c'est bien.
Si je parle plus, les sujets vont être courts.
Oh. Et il faut le dire, cette semaine, pour cette première version, première nouvelle version, il faut quand même le saluer. Il est très courageux, parce qu'automatiquement, celui qui pose la question...
Il s'expose.
Il pourra pas obtenir ce pouvoir. N'est-ce pas, Dino?
Eh oui, j'assume.
Et pourtant, je peux vous dire, hein, quand j'ai préparé l'émission, j'ai dit... Oui, j'ai pas visé Dino, c'est lui-même qui a dit « Oh bah tiens, j'ai peut-être une question.
» C'est ça de pas penser aux conséquences de ses actes.
Le service apparent de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Enfin, duel. Ouais, un duel.
Alors c'est une question que j'ai eu le temps de préparer durant cet hiver.
Oh, oui.
Oh la vache, elle doit être bien. Elle doit être bien corsée.
Non, pour vous dire, j'étais parti sur une autre question, mais malheureusement, faute de temps et de statistiques, je n'ai pas pu la développer concrètement. Mais j'ai bon espoir pour un moment donné dans la saison, peut-être. J'ai choisi cette semaine une question un peu plus simple, hein. Donc je rappelle le principe, hein. On pose une question, vous allez chacun donc pouvoir vous battre pour être le premier à y répondre et donc gagner le gage. Et cette question est la suivante: pour quelle raison la commune de Saint-Hélier a-t-elle fait l'actu durant l'intersaison?
C'est en Suisse?
Non.
C'est en France?
Non.
C'est dans un pays francophone?
C'est difficile de répondre positivement, mais on y parle français.
Canada? Belgique? Non. Luxembourg?
Non, non, non.
En Louisiane?
Non. Mais c'est dans cet esprit de la Louisiane. C'est-à-dire, c'est un pays où on ne parle pas français, mais à Saint-Hélier, on parle français.
D'accord. Où il y a un coin où on parle français.
Voilà.
C'est pas en Europe?
Oui, c'est en Europe.
Ah.
C'est quand même pas à Monaco. C'est pas super sûr que trouver le lieu.
C'est pas dans les îles anglo-normandes, Saint-Hélier?
Oui, c'est dans l'île de Jersey.
Oh, Jersey.
Donc voilà pourquoi cette petite commune de l'île de Jersey a fait la
La question, c'est qui est parti s'exiler fiscalement à Jersey?
Non, la question, c'est pour quelle raison la commune de Saint-Hélier a fait l'actu durant l'intersaison?
C'est une question d'impôt?
Non.
Ah, bon, dommage.
On est d'accord, ça a un rapport avec la F1?
Ah oui, c'est un rapport absolu avec la Formule 1.
Oh là, absolu, alors là... Quand on commence à dire que c'est un rapport absolu...
C'est le boss de Red Bull qui a fait migrer son héritage là-bas après sa mort.
Tu veux dire, c'est Léo Yovidia?
Oui.
Oui, lui-même.
C'est une société qui s'est installée là-bas?
Oui, en quelque sorte. Ah. Enfin, oui.
Une société très présente en Formule 1?
Plus maintenant. Mm.
Donc on peut dire ce qu'on veut, c'est pas Bernie qui fait de l'optimisation fiscale?
Non, ça n'a strictement rien à voir avec le fisc. Enfin,
c'est pas des actifs de HRT qui ont été vendus et qui seraient retrouvés à Saint-Hélier?
Non. Les gens là-bas, ils se font chier, ils se disent, on va s'acheter une HRT.
Ils ont même pas la surface pour faire un circuit.
On des essais en ligne droite.
Donc c'est un rapport à une société qui n'est plus en F1.
Ah, la société n'a jamais été en Formule 1.
Ah, elle n'a jamais été. Alors c'est quoi le rapport?
Ah bah c'est un rapport avec la F1, peut-être que je te le dise.
Est-ce que ça concerne un personnage de la F1?
Oui.
Un personnage, un pilote?
Oui.
Voilà. Ah, c'est pas un ancien sponsor de Niki Lauda?
Non.
Non.
Ça compte pas, il y en a trop.
C'est un ancien pilote qui a créé une société, il l'a créée à Saint-Hélier?
Tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça. Le mec déjà a bien fumé, hein, parce qu'elle est installée dans l'île de Jersey. Faut quand même...
C'est un anglais?
Tu verrais...
La Valeur Automotant le Sport.
Tu verrais les feuilles d'impôt anglo-normandes, tu comprendrais.
Oui, sans doute. Et pour répondre à Gus, oui, c'est un anglais.
Il est impliqué dans d'autres sports automobiles que la F1?
Plus maintenant.
Plus maintenant? Mais est-ce qu'il a, par exemple, dirigé des championnats avant?
Non, je crois pas.
Non.
Tu pensais à qui?
Jonathan Palmer? Palmer?
Non. C'est bien, on essaie d'imaginer un pilote anglais qui pourrait vivre à Jersey. Bon, c'est petit, on imagine un petit mec. Ah. Jonathan Palmer. Enfin, qu'il y a un petit mec en Formule 1.
C'est un ancien vainqueur de Grand Prix?
Ouais, attention à ce que tu dis, quoi.
Oui, non, mais voilà. Jonathan Palmer est un grand monsieur des sports mécaniques, soyons clairs. Mais pas en Formule 1.
C'est un ancien vainqueur de Grand Prix?
Oui.
Un ancien champion du monde?
Ah oui.
C'est Mansell, il a lancé sa moustache là-bas.
Alors c'est Mansell.
Ah, play gel.
Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il
pour
a
quelle
fait,
société?
Pour quelle société?
C'est une société qu'il a créée, on est d'accord.
Oui,
d'accord.
Avec son fils, Léo.
C'est une société ou c'est une association?
C'est une société.
Et la société, elle a un lien quand même avec le sport auto? Ou pas du tout?
Alors en fait, il a créé une société, c'est pas trop la société en elle-même qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a autour de la société qui, elle, a un lien avec la Formule 1. C'est clair.
Il y a des mines de carbone au Jersey?
Non. Ça, c'est au Venezuela qu'on trouve les mines de carbone en ce moment.
Et en France, accessoirement.
Et ça a rien à voir avec l'écurie qu'il avait en endurance.
Non, il y a un rapport, mais c'est pas là où est le siège de l'écurie ou quoi que ce soit.
Donc je reprends la question, pour quelle raison la commune de Saint-Hélier a-t-elle fait l'actu durant l'intersaison? On sait que c'est lié à une société qui s'est installée donc dans l'île de Jersey, l'île anglo-normande, et donc qui est a été créée par Nigel Mansell et son fils Léo. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette société?
Elle manage des pilotes peut-être?
Non.
Elle fabrique quelque chose, un objet matériel?
Non.
C'est de l'événementiel?
Non.
Il vend des choses?
Oui.
Est-ce qu'il vend par exemple des objets type F1 qu'il envoie de...
Non, bon, je peux vous dire, il a ouvert une concession automobile, donc il vend des voitures. Mais c'est pas vraiment la société en elle-même qui nous intéresse.
Elle y expose, dans les concessions, il y a des F1 de Mansell qui sont exposées?
Oui, donc c'est...
C'est
un musée.
Le musée, bravo Gugu, oh. Tu as gagné le pouvoir du ta gueule le premier de l'année. C'est le musée Nigel Mansell qui a ouvert cette semaine. Voilà, c'est effectivement dans la commune de Saint-Hélier, sur l'île anglo-normande de Jersey, que Nigel Mansell, qui avait déjà dirigé une concession Ferrari, a ouvert une concession automobile spécialisée dans les voitures de prestige. Installée dans un bâtiment art déco complètement rénové, la concession abrite également un musée consacré au champion du monde 92, ouvert depuis quelques jours au public de 14h à 18h en semaine. Il vous en coûtera pour la visite 10 livres, soit un peu plus de 11€ pour les adultes, 5 livres, soit un peu plus de 5,50€ pour les enfants entre 6 et 16 ans, tandis que l'accès au musée est gratuit pour les moins de 16 ans, ainsi que pour les personnes de plus de 65 ans. Pour ce prix, vous pourrez voir la Formule 1 FW14B avec laquelle Nigel Mansell a été titré champion du monde en 92, ainsi que la Ferrari F640 avec laquelle il s'est imposé pour ses débuts avec la Scuderia Ferrari au Grand Prix du Brésil 1989. À côté de ces deux Formule 1, trône la monoplace avec laquelle Mansell s'est imposé deux fois lors du célèbre Grand Prix Master en 2005 et 2006, ainsi que la LMP2 Ginetta Zytec avec laquelle Nigel Mansell et ses fils ont participé aux 24 heures du Mans en 2010, une course qui s'était terminée par une sortie de piste au bout de 20 minutes suite à une crevaison lente.
Est-ce qu'il y a la MP410 dans laquelle il rentrait pas?
Non.
Est-ce qu'il y a la Lotus qui l'a poussé à Dallas?
Non, en fait, il y a que ces quatre Formule 1, plus c'est vraiment un tout petit musée, hein. C'est vraiment c'est un peu pour acheter les clients en disant, venez voir mon musée, puis après peut-être vous allez acheter une voiture.
C'est justement ce qu'on sait, est-ce que tu sais de quelle marque c'est une concession?
Non, en fait, c'est vraiment des voitures de prestige, donc c'est des secondes mains, c'est de l'occasion, mais il y a un peu de tout, quoi. Il y a une Mini notamment, il y a des Mercedes, des BMW, mais c'est du haut de gamme, quoi. Mais ce qui rend la collection Mansell unique au monde, c'est la présence de tous les trophées originaux remportés par le pilote britannique durant sa carrière, puisque tous ces contrats stipulaient qu'il garderait les trophées originaux, là où la plupart des pilotes doivent aujourd'hui se contenter de copies. N'est-ce pas, Lewis Hamilton? Cela tient notamment compte des trophées donc remportés en Formule 1, mais aussi en karting, en Formule 3, en Formule 2, en IndyCar et en GP Master. À tout cela s'ajoutent également des photos ainsi que de nombreux modèles réduits. Cependant, manque à l'appel la voiture d'IndyCar, la Newman Haas, avec laquelle Mansell a réussi l'exploit d'être le seul champion du monde de Formule 1 en exercice à devenir champion dans championnat kart l'année suivante. Donc voilà, c'est le musée Nigel Mansell. Si vous passez en Normandie, d'abord vous venez nous faire un petit coucou, nous on est Armand. Et puis après vous pouvez aller à Granville, et la Granville vous prenez le ferry pour aller jusqu'à l'île de Jersey.
Ouais. Et vous pouvez acheter plein de trucs parce qu'avec les taxes
ça vaut le coup.
Ça vaut le coup.
Il y a combien d'habitants sur l'île de Jersey?
Pas beaucoup.
Mais il y a beaucoup de pulls.
Oh là là.
Rappelons, Gus, que t'as le droit de lui dire ta gueule, si tu veux.
Mais faut pas griller là-dessus, parce que sinon...
sinon, on va attendre 5 minutes, c'est lui qui anime.
S'il vous plaît, pas des ta gueule sur des blagues, même quand elles sont moches.
Oui.
Ça serait oui, plus le style, hein, SAV.
Écoutez, Fab, oui. Fab approuve.
En tout cas, j'aimerais... Bravo, Gus, hein. Vraiment, c'est magnifique. j'ai aimé cette victoire pleine de panache.
Je n'aime pas ce léchage de fesses.
Alors tout de suite, on veut récompenser l'excellence.
Incroyable. Moi je laisse faire, moi je dis rien. Moi j'en dis, mieux je me porte.
Ah tu veux rien dire?
Non.
Bon. Continue Shinji.
Oui, bien. Vu que le quiz est passé, on va passer, comme l'année dernière, au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. le seul podium au monde à géométrie variable.
J'ai pas eu toutes les votes cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Donc, au lieu d'avoir 5 actus, il y aura 4 actus principales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 4 actus qui sont à la 5e place.
D'accord.
Ah.
Comme quoi, 3 mois, ça suffit pas pour faire un truc d'université.
Oui, oui, c'est... Pourtant, normalement, même à 4, voilà, t'arrives à avoir des choses, mais bon, là, pas cette semaine.
Faut dire aussi que l'intersaison a été particulièrement molle en termes d'actu. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui,
sur la fin, ça se densifie un peu.
Mais... Oui, ouais, voilà.
Oui, oui.
Surtout les deux dernières semaines.
Les deux dernières semaines, oui. Et messieurs, je vous propose de passer par le gros morceau, le choc, le Big Bang. Hein.
De quoi tu parles?
Ce truc qui ne concerne que les Français, finalement, d'ailleurs. Hein.
Mais c'est vrai, en plus.
Oui. Mais bon, c'est quand même...
On l'oublie,
c'est quand même méga important pour nous. C'est bien évidemment l'AF1, donc, on le sait, qui pour 3 ans passera donc sur Canal+, ce qui signifie donc en payant. Vous avez été nombreux à réagir sur Fan F1, c'est peu de le dire. Puisque, donc, sur l'article officiel, on a mis un sondage, il faut le dire. Et j'ai envie de dire de mémoire, on n'a jamais vu ça. Face donc à cette nouvelle, hein, donc on va en parler après. Donc on a posé comme sondage, comment suivrez-vous les Grands Prix de F1 en 2013? Non, bien évidemment. Vous avez quand même été 3323 votants. C'est juste énorme. Il y a des sondages à la télé, des sondages politiques, il n'y a pas 3000 personnes qui répondent, hein, c'est sur 1000 personnes.
Là, oui, mais il y a des rageux qui votent plusieurs fois, je parie.
Non, mais on a reçu des appels de la Sofresse pour nous demander, mais comment vous
comment vous faites? Et donc il y avait 4 possibilités. En dernière position est arrivé, je compte m'abonner à Canal+, parce que c'est quand même le but premier de Canal, hein, faut pas l'oublier, qui est arrivé 4e avec 7,67%. Donc même pas 10% de 3. C'est-à-dire qu'à peu près sur les tous les votants, il y aurait peut-être 300 nouveaux abonnements, hein, à peu près, je dis ça à la louche. Je suis déjà...
Non mais si tu rapportes ça au nombre de personnes qui regardaient la F1 en moyenne,
oui.
Si c'est vraiment un chiffre représentatif, c'est pas mal.
Bah si à peu près les chiffres c'était combien? C'était dans les 3 millions, dans les gros.
Ouais, en gros. Ouais.
Donc on est 3 millions, ça fait 30...
Ça fait 300 000.
C'est là où on
préparait. Multiplie par 1000, ça fait 7000 nouveaux abonnés, quoi. Il y a 3000 votes.
Oui, donc, oui, à 3000 peu près, oui, voilà.
À peu près par 1000.
Oui, tout à fait, on peut faire comme ça. Oui, ça fait.
Ta-dun, 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 ta-dun.
Donc après, il y avait la possibilité, je suis déjà abonné à Canal. Et là, on trouve 8,58%. Ce qui ferait donc au total, hein, si on prend les deux, on aurait à peu près 15 à 16% de gens qui ont Canal ou qui souhaiteraient s'abonner à Canal. Ça fait pas énorme. Le chiffre peut-être qui est le plus triste, c'est je ne suivrai pas les Grands Prix. Donc des gens qui se disent que c'est fini. C'est quand même très triste. On arrive quand même à un chiffre de 35,99%. Plus d'une personne sur 3.
Ouais, mais ça doit être l'effet repoussoir, quoi, de la décision. Enfin, du résultat de l'appel d'offres qui fait ça. Les gens qui se disent, plus jamais, la F1 ne passera pas par moi.
Boycottons, mes amis, boycottons.
on peut le répéter, hein. Si vous voulez boycotter, tout simplement, vous abonnez pas, hein.
Cette émission est sponsorisée par Canal+. Et dire les choses, messieurs, nous sommes vendus au grand capital.
Et donc, 4e position, qui était en fait les autres, c'est-à-dire suivre la F1, mais d'une autre façon. Donc, radio, notamment RMC, les chaînes étrangères, on a beaucoup parlé notamment soit par la RTBF, par RTL TV, via le satellite ou via des abonnements sur les box, ou le streaming, donc sur Internet. Et là, on monte à 47,76%. Et en effet, on peut penser que la majorité de ceux qui veulent suivre la F1 mais qui veulent rester, en effet, passeront en streaming, même parmi ceux qui disent « je ne suivrai pas les Grands Prix ».
Oui, bien sûr, d'autant qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver des liens qui restent illégaux, hein, quand même, faut le dire, parce que beaucoup de gens estiment cette solution légale alors qu'elle ne l'est pas.
Le principe du streaming en soi n'est pas illégal.
Alors, le principe, non.
Mais c'est les contenus diffusés en streaming qui sont illégaux.
Voilà.
Vous pouvez pas diffuser des contenus dont vous n'avez pas les droits, quoi. À un moment donné, faut même aussi, ça repose la question. Et moi, c'est ce que je dis sur le forum, notamment. C'est que, faut pas oublier, c'est que, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils avaient le droit à la F1. Non, c'est TF1 qui avait le droit à la F1. Ils payaient 29 millions pour ça. Aujourd'hui, TF1 n'a pas mis suffisamment sur la table pour avoir le droit à la Formule 1. C'est Canal+ qui a le droit. Et c'est Canal+ qui va mettre à notre disposition en nous faisant payer. Mais il n'y a jamais eu un droit à la F1. La F1 ne nous a jamais appartenu. La F1 a toujours appartenu à la volonté d'un groupe qui s'appelle le groupe TF1.
C'est quand même très triste. Il y a quand même beaucoup de gens qui, en effet,
Après, Canal+ est dans son droit. C'est pas pour être méchant, mais Canal+ n'est pas devenu payant il y a deux semaines, et ça fait non. pas il y a deux semaines non plus qu'on savait que Canal était sur les rangs pour avoir les droits.
Mais c'est ça justement. Moi, ce qui me je partage sincèrement la tristesse.
Oui,
moi,
bah ça, j'ai oui, la quand chance. Même, oui, voilà.
J'ai la chance de faire partie de ces gens qui sont abonnés à Canal+ parce que c'est voilà, Canal+ j'y trouve plusieurs intérêts. C'est un choix que j'ai fait. J'y sacrifie pas mal de choses. Moi j'ai cette chance-là. Maintenant, c'est pas parce que j'ai cette chance-là et que je suis content que ce soit sur Canal+ pour des questions de qualité que j'oublie derrière que effectivement il y a des gens qui ne vont pas y accéder gratuitement et compagnie. Et pour eux, ça me fait chier. Je serais dans leur situation, ça me ferait chier aussi. Maintenant, il y a quand même certains discours et certains extrêmes moi qui me font sortir un peu de mes gonds. Et surtout, moi ça me fait toujours rire de voir les gens se mobiliser une fois que la Formule 1 est passée sur le payant. C'est avant qu'il fallait se mobiliser. Ça fait des années que TF1 délaisse la Formule 1, que TF1 n'en a plus rien à foutre de la Formule 1. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. On les a laissés faire, on a tout laissé venir, on a dit que c'était en déperdition, qu'on n'était pas content parce qu'il n'y avait pas les qualifs, qu'il n'y avait pas les essais, qu'il n'y avait pas de vrai magazine et compagnie. En clair, ça fait des années qu'on gagne, ça fait des années qu'on ne fait rien. Bah, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. La F1 est totalement payante. Et ben, fallait réagir avant. Voilà. Moi, j'ai pas agi. Aujourd'hui, j'ouvre pas ma gueule parce que j'ai pas agi. Aujourd'hui, il y en a qui arrêtent pas de vouloir agir, qui lancent des pétitions, qui appellent au boycott. D'ailleurs, c'est très drôle de boycotter une chaîne payante en disant je veux pas payer. Bah oui.
Bah voilà. C'est facile, ça, voilà. Voilà. Mais faut voilà, pas moi, le dire. Moi, ce canal, c'est d'avoir des abonnements rares. Donc bah voilà. Comme je disais, si vous voulez boycotter, bah prenez pas l'abonnement.
Mais c'est même de manière un peu générale, c'est une réflexion, et c'est aussi le comportement humain qui est comme ça, c'est de manière générale, c'est quand les gens perdent leurs droits, que tout d'un coup, ils se sentent l'envie de se mobiliser. Mais non, c'est avant qu'il faut se mobiliser, pour éviter justement de perdre ce que vous estimez être un droit. Donc voilà, fallait se mobiliser avant, fallait se mobiliser l'an dernier. En plus, Canal+, c'est pas une surprise, quoi. Ce qui est une surprise, c'est que ça n'arrive qu'au mois de février, mais Canal+, ça fait quand même quasiment 6 mois qu'on nous dit que ça va finir sur Canal+. C'est avant qu'il fallait écrire sur TF1, fallait écrire à Canal+, etc.
Je me rappelle très bien des émissions qu'on a faites, on a parlé de Canal, on a dit bah ouais, le gros risque c'est que si c'est Canal, il y a des chances que ça soit en payant. Surtout que, alors là pour le coup, là on est vraiment très mal fagoté par rapport aux autres pays, c'est que là pour le coup c'est vraiment du tout payant. Parce qu'on a comparé notamment avec l'Angleterre ou l'Allemagne, il y a quand même une retransmission dégradée quoi, qui existe. C'est pas la panacée, mais ça existe.
Mais ça c'est la faute aux groupes français qui s'entendent pas. À un moment donné, ils auraient très bien pu s'entendre. Puis peut-être aussi au CSA, parce que je crois que le CSA là-dedans, il doit y avoir des règles de non-concurrence dans les programmes. Enfin,
ils ont mis plein de contraintes en plus entre D8 et Canal. Voilà. Ce qui fait que oui, en effet, si D8 veut diffuser de la F1, en gros, faut qu'il rachète les droits à Canal. Enfin, c'est n'importe quoi.
Donc moi, je trouve que globalement, c'est un peu facile de taper sur Canal. Là, on pourrait taper sur TF1, qui a pas forcément fait non plus des efforts pour s'entendre avec Canal sur certains points. On peut taper sur beIN Sport aussi, qui a quand même sur le marché, qui a changé le marché, même si ils ont pas été non plus des gros acteurs.
S'ils avaient gagné, ça serait revenu moins cher. Les gens auraient gueulé quand même, hein, parce que c'était passé en payant, ça serait revenu moins cher quand même.
Ouais, mais là, c'est pareil, beIN, j'en ai parlé dans un de mes commentaires, beIN a cassé totalement le marché, et le marché tel qu'il était surtout un marché qui était dominé par Canal+. À un moment, quand on a favorisé l'entrée de beIN, alors moi je reviens pas là-dessus, à mon avis c'est très bien, mais quand on a favorisé l'entrée de Canal+, pour casser le monopole, l'entrée de beIN pour casser le monopole de Canal+, il y avait ce risque-là que Canal+, finisse par se positionner sur d'autres sports, et forcément les faire passer du côté du payant. Et la Formule 1, c'est une aubaine, parce que les droits arrivaient en fin d'exploitation, ouais. Et en plus, TF1, en plus de subir des audiences à la baisse, alors de leur faute certainement, mais aussi par l'érosion de l'audience de la Formule 1, et aussi parce qu'ils avaient clairement fait comprendre qu'ils souhaitaient pas vraiment... c'était un produit pour lequel ils ont candidaté, mais qui souhaitaient plus vraiment. Et donc finalement, Canal se retrouve dans une situation d'aubaine, de se retrouver avec les droits de la Formule 1, de se positionner là-dessus. beIN ne pouvait quasiment pas se positionner de la même manière que la
Vous attendez quoi de la retransmission Canal? Alors ça a été dit, sur la course en elle-même, où, bon, à part le fait... Il y en avait qui mettaient ça en doute. Quand c'est encrypté, il n'y a pas de pub sur Canal. Même sur tous les programmes, il n'y a pas de pub sur le crypté Canal.
Et de toute façon, ça a été reprécisé par Cyril Linette sur Twitter. Il n'y aura pas de pub pendant les séances.
On sait que pendant les courses en elles-mêmes, ça a été dit, on le sait très bien, c'est la FOM qui réalise, donc ils pourront rien faire. Donc si c'est mal réalisé, bah, c'est pas la faute à Canal pour le coup, c'est la FOM comme on se plaint depuis bien longtemps. Je crois que Jean-Louis Moncey le disait justement dans son article. Pourquoi, par exemple, on n'a pas des caméras dans les stands? Bah, ils ont pas le droit, parce que le signal vidéo, ça doit vraiment être celui de la FOM. C'est pour ça que souvent il y avait que des sonores.
Ah ouais.
Parce que ça,
de même qu'ils ont pas le droit de repasser des ralentis de eux. Alors TF1 le faisait de temps en temps, mais c'est ils étaient pas censés le faire. Ils doivent diffuser le truc en direct intégral. Quoi.
Donc après c'est tous les alentours pour le coup qui eux par contre risquent de bien changer. Enfin, on l'espère pour le coup vu que c'est en payant que voilà il y a cette image Canal par rapport au traitement du sport. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, bah c'est surtout là-dessus. De toute façon, c'est clair que la retransmission en elle-même, bah, à part les commentateurs pour le coup et les journalistes sur place, il y aura pas grand-chose à signaler. D'ailleurs, les commentateurs, on peut en parler un peu, mais bon, ça pour les consultants, ça tourne autour d'Alain Prost qui ferait pas tous les grands prix. Puis après, bah ceux de la maison Canal qui ont déjà une expérience dans le sport automobile, comme Thomas Michael qui a présenté. Et qui a été vu à Barcelone, exactement, et qui a présenté Automoto sur TF1. Mais sinon, après, c'est sûr que c'est surtout l'avant et l'après. Ça, c'était des domaines qui étaient délaissés ou alors très très médiocres sur TF1. Enfin, je veux dire, F1 la une, c'était quand même, voilà, c'était le fond du tiroir. Alors après, on sait pas ce que va faire Canal, parce qu'il faut pas non plus dire que Canal fait des traitements exceptionnels des avant-événements sportifs. Hein. Ça dure pas non plus des heures. Je pense pas qu'il faut espérer quelque chose à l'anglaise. Mais on aura sans doute 45 minutes avec échange plateau Grand Prix sur cette question. Un après Grand Prix sans doute qui sera bien plus fourni, mais là c'est vraiment pas difficile pour le coup parce que TF1 ça s'arrêtait au podium, même peut-être aux hymnes parfois. Donc voilà, donc sans doute une retransmission complète des conférences de presse, une demi-heure, trois quarts d'heure derrière pour l'analyse, et puis donc les magazines en clair qui sont là quand même un petit peu plus intéressants, peut-être pour ceux qui n'ont pas.
Apparemment eux disent qu'ils vont pas mettre un peu le paquet sur ce programme. Pour attirer le chaland, en fait, ils reproduisent un peu le modèle du foot avec le CFC.
Et bah de toute façon c'est aussi leur vitrine à eux parce que je pense qu'ils ont bien compris que de toute façon ils auraient pas de cadeau de la part des futurs potentiels téléspectateurs et que il faut vraiment qu'ils misent sur ces émissions en clair pour attirer des téléspectateurs. D'autant que c'est tombé là cet après-midi, mais ils ont perdu en France 80 000 abonnés l'année dernière. Donc il y a peut-être moyen sur le créneau de la Formule 1. Ils le disent aussi. Beaucoup de ceux qui regardent ceux qu'on canale pour le sport et notamment le football regardent aussi la Formule 1 parce que c'est vrai que c'est un bouquet sportif. Voilà. Après ça peut leur permettre de regagner des parts de marché sur ce créneau-là, quoi. Mais rien n'est moins sûr. J'ai envie de dire gros pari pour Canal, mine de rien.
Après, tu disais en effet, on parlait de Del Perrier, de Sénécal. J'avais lu, mais c'était juste un truc. Peut-être allez-y. Alors de là, imaginer peut-être une alternance Prost allez-y. Pourquoi pas?
Ouais, bah les noms circulent avec Margot. Non,
et puis
aussi.
Et puis en l'état,
Prost, ça sera drôle quand même de l'entendre parler de Renault. Juste comme ça, mais voilà.
Bah, il est ambassadeur Renault.
Bah oui,
Renault,
c'est pour
donc,
ça.
Ouais, ouais.
Et allez-y, ambassadeur de Lotus.
Non, il est ambassadeur Pirelli maintenant, allez-y.
Ah.
Ouais, depuis cette année. Ah, tu sais, depuis que maintenant, il peut plus faire d'IndyCar, être ambassadeur Lotus, ça lui sert pas à grand-chose.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais après.
Enfin, si, il peut faire de l'IndyCar, mais il faut qu'il pédale. Alors, bon,
après, je pense sincèrement que sur les commentateurs, pour moi, c'est pas aujourd'hui une question prioritaire. C'est vrai que c'est la partie émergée de l'iceberg. Ça nous intéresse tous de savoir qui va commenter les Grands Prix, mais je pense qu'on a encore le temps. Aujourd'hui, l'urgence, je pense vraiment pour Canal+, c'est de former une rédaction, spécialisée dans la F1, de préparer des équipes, parce que, mine de rien, faudra envoyer des équipes.
Des déplacements, voilà.
C'est de prévoir aussi d'activer des réseaux, ce que pour moi, Canal+, n'a pas. Ça va être aussi de déboucher, sans doute, des mecs qui travaillaient sur TF1, au service sport de TF1, des mecs spécialistes dans la F1 pour aller les chercher, des mecs peut-être des RMC aussi. Enfin voilà, vraiment de constituer une équipe. Après, faut pas oublier, comme l'a dit Fab tout à l'heure, que Canal+ n'est pas Sky Sports, n'a pas les moyens de Sky Sports, n'a pas non plus aujourd'hui. Enfin voilà, Sky Sports, je crois que c'est 80 personnes sur les Grands Prix. C'est aussi un groupe britannique, voilà, qui a des gros liens avec la Formule 1. Donc faut pas non plus s'attendre à ce que Canal+ fasse une couverture digne de Sky Sports, qui aujourd'hui, enfin, on l'a vu cette année dans les présentations des voitures, ils sont sur tous les coups, quoi. Puis faut pas oublier derrière, c'est que on est que la France, et que la France, pour le moment, j'arrête pas de le répéter, mais en Formule 1, ça pèse peanut. D'accord, on a un motoriste, d'accord, on a trois, peut-être quatre pilotes, mais on n'a pas de constructeur, on n'a pas de Grand Prix. En termes de sponsors, on a 2-3 gros sponsors qui sont impliqués, mais ça reste quand même très très léger. Voilà, oublions pas que la Formule 1 reste quand même un sport avant tout très britannique, très anglais, enfin très britannique, très italien et assez allemand. En dehors de ça, voilà, nous on n'est pas la, on n'est pas l'une des puissances majeures de la Formule 1.
Ouais. Oui, et... il y a pas d'audience, faut, faut ouais. le rappeler.
Justement, oui, hein. justement, pour aller plus loin, aujourd'hui, on peut dire la F1 c'est un sport de niche.
Elle a toujours
en
été.
Tout cas, dire que c'est un sport populaire, c'est un peu exagéré, je trouve. 3 millions de personnes sur TF1, quand on sait qu'il y a un petit effet première chaîne, ça ramène après, c'est à la louche, mais 2 millions et demi. Il n'y a pas d'autres sports qui étaient diffusés gratuitement avant qui faisaient aussi peu d'audience. Ou alors il fallait vraiment qu'ils tombent comme du foot féminin sur diffusé sur la TNT. Et encore, quand c'était la Coupe du Monde, le foot féminin, ça marchait pas mal. Donc, sport de niche, peut-être aussi par sa nature, parce qu'il y a de la technicité et qu'il y a des stratégies, etc. C'est peut-être un peu plus difficile à comprendre qu'un sport comme le football. Même si, évidemment, il y a aussi un aspect tactique, etc. Quoi.
Et sinon, pour continuer sur la France, est-ce que, de fait, c'était pas très bien engagé, est-ce que ça ne signe pas aussi l'arrêt de mort définitif d'un Grand Prix de France? Dans le sens où on sait le prix que ça coûte, est-ce que les investisseurs potentiels vont avoir envie d'investir dans un événement qui finalement ne sera peut-être vu que par 300, 400 000
non, justement,
personnes?
Justement, là il y a une petite astuce, c'est qu'un Grand Prix de France de Formule 1 fait partie des événements qui doivent être diffusés en clair. Ça c'est un faux problème. En réalité, un Grand Prix de France de Formule 1 sera regardé par le même nombre de personnes potentiellement. Parce que la loi oblige, il y a de nombreux événements comme ça, hein, comme les matchs de l'équipe de France de foot par exemple, la loi oblige à la diffusion du Grand Prix de France de Formule 1.
Sur du gratuit.
En clair, sur le gratuit. Donc ça sera diffusé en même temps sur une chaîne gratuite D8 par exemple, mais ça peut être aussi diffusé sur TF1, sur France 2, enfin voilà. Donc ça c'est un faux problème.
Et puis sincèrement, on sait très bien que le public n'est pas à l'origine de la création d'un Grand Prix. On va en Corée, on va en Turquie, enfin on allait en Turquie, on va en Inde, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas le public le problème. Aujourd'hui, ce sont les marchés. Aujourd'hui, on va en Inde, on va en Chine parce que ce sont des marchés. Alors après, comment va être transmis le Grand Prix, ça a une importance, mais c'est surtout l'idée d'être présent sur ce marché-là, d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, la plupart des marques qui sont impliquées en Formule 1, elles n'ont pas besoin de la Formule 1 pour avoir une visibilité sur le marché français.
Justement, au niveau des marques, puisqu'on voit quand même que le but, ben, on voit que ça se généralise, hein. France, Allemagne, Italie, Pays-Bas. Le nouveau modèle, c'est le payant. La F1, ça passe sur du payant. Sur le court terme, on sait que pour les équipes, c'est pas gênant parce que finalement, elles reçoivent quasiment un peu plus d'argent vis-à-vis des sponsors. Alors, je pense pas à des sponsors type Rolex, choses comme ça qui sont, comme on dit, très CSP+. Donc, ils sont des gens qui sont le public de ces chaînes payantes. Est-ce que sur le long terme, ça ne peut pas poser problème à certains sponsors? Je pense par exemple à une marque comme Coca-Cola qui investit en F1. C'est une marque très grand public. Est-ce qu'elle a envie d'investir sur le long terme sur, pareil, un sport qui finalement sera vu par peu de gens?
Bon, mais c'est comme disait Dino, à mon avis, parce que est-ce que tu vises vraiment les vieux pays d'Europe? Parce que encore une fois, c'est surtout dans les vieux pays d'Europe que la F1 devient payante. Après, je connais pas la diffusion dans le monde entier, mais j'imagine qu'il y a d'autres marchés en Asie, peut-être en Amérique du Sud, qui sont plus intéressants à cibler pour des marques comme Coca-Cola que l'Europe, qui, bon, à mon avis, c'est plutôt un marché conquis, quoi. L'Amérique aussi, mais l'Amérique, du coup, c'est en clair. Voilà, enfin, à mon avis, je pense que avec la base américaine plus des marchés en Asie, Coca-Cola peut s'y retrouver facilement avec la Formule 1, d'autant que la Formule 1 va vers l'Asie, tend à aller vers l'Asie de plus en plus, donc dans ce sens-là que ça...
Les États-Unis, c'est pas en clair, hein.
Ça va s'en faire cette année, je crois.
Il y a 4 grands prix en clair sur NBC, le reste c'est sur NBC Sports.
D'accord. Qui est une chaîne câblée.
D'accord.
Mais c'est-à-dire que aussi,
il passe de 0 à 4, quoi.
C'est aussi, faut regarder un aspect important, c'est qu'aujourd'hui, les écuries de Formule 1 et les sponsors ne font pas leur image sur la diffusion du Grand Prix. C'est sur les à côté, c'est sur l'image de marque. Aujourd'hui, par exemple, quand une entreprise comme Coca-Cola, où on va prendre l'exemple le plus récent, UPS, ils ont pas attendu d'avoir des Grands Prix de Formule 1 pour capitaliser sur leur association avec Ferrari. Dans la journée même où ils annonçaient l'annonce, il y avait déjà un spot publicitaire qui était sorti avec UPS qui mettait en en avant le fait que UPS allait livrer les pièces les plus fondamentales, enfin les échappements, c'est quand même symbolique, de la Ferrari et compagnie. Donc c'est surtout sur ça, c'est tu t'associes à un sport qui, quoi qu'il arrive, même si tu le regardes pas, à l'image de quelque chose de prestigieux, de quelque chose de technique, de l'excellence du sport, parce que la Formule 1 est considérée par beaucoup de gens qui la regardent pas forcément, mais comme un sport qui représente l'excellence, c'est le fait d'être associé à cette image, c'est pas forcément le fait d'être, d'y être retransmis. Bien évidemment que avoir ton logo et compagnie, ça rapporte des choses, mais pour les équipes ou pour les sponsors, ça change rien. Pour les équipes, parce que globalement c'est leur temps de passage à la télévision qui va dicter une partie de leur revenu, plus les classements, les points et compagnie. Donc ce qui compte, c'est la manne financière, c'est pas le nombre de personnes qui regardent, mais c'est l'argent qui rentre dans les caisses de la F1. En passant sur Canal+, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de la Formule 1 que si c'était resté sur TF1. Donc à la limite, pour eux, ils s'en foutent qu'il y en ait 2 millions qui regardent. Il y en a 500 000, il y en a 500 000, c'est pas grave. Ça leur apporte plus d'argent. Et pour les sponsors, bah, les sponsors, eux, ils vont continuer à se faire de la pub grâce à YouTube et compagnie. Il faut pas oublier, c'est qu'il y a Internet maintenant, et que Internet va exercer, on peut dire, il y a 15 ans, il y avait que la télé pour regarder la F1. Mais aujourd'hui, des vidéos de Formule 1, tu peux en voir sur YouTube, tu peux en voir partout, même si c'est pas forcément légal, tu peux en voir partout. Et quand on parle du marché, si je reprends le sondage, sur le sondage qu'on a fait, il y a seulement 36% des personnes qui ont dit qu'ils ne suivraient plus les Grands Prix. Les autres vont quand même le regarder, soit parce qu'ils sont abonnés à Canal+, soit parce qu'ils vont s'y abonner, soit parce qu'ils vont regarder par d'autres manières. Donc pour les marques en ont conscience et en tiennent compte, bah, ils vont se dire, bon bah en France, on perd qu'un tiers de notre potentiel de téléspectateurs. Et fondamentalement, est-ce qu'on garde pas les fans les plus forts, ceux qui nous intéressent peut-être le plus,
les plus rentables aussi.
Bah oui, ceux qui suivent vraiment la Formule 1, quoi. C'est des vrais fans. Pour s'abonner 40 € par mois, faut être un vrai fan quand même. Hein.
Oh bah c'est ça, oui, si tu t'abonnes que pour la F1.
Oui, non, mais c'est vrai.
T'es un vrai fan.
Oui. Mais après, c'est aussi la question, c'est l'argument aussi, moi, un argument qui m'a pas mal agacé dans les discussions, c'est quand on s'abonne à Canal+, c'est pas l'usage que vous allez en faire qui compte et qui doit définir le prix de l'abonnement. C'est sûr que si vous abonnez à Canal+ que pour avoir la Formule 1 et que vous n'allez regarder que la Formule 1 concrètement, 40 €, c'est cher. Mais vous pouvez pas dire que l'abonnement est cher. Non, l'abonnement, il inclut du cinéma, il inclut un replay. Enfin, moi, je sais que aujourd'hui, oui, grâce à ça, je vais gagner beaucoup en confort. Enfin,
oui, mais tu comprends que si ces gens-là s'étaient intéressés à d'autres choses, peut-être qu'ils seraient déjà abonnés.
Oui, moi je pars sur la critique du prix. Tu peux pas critiquer le prix d'un abonnement. Ça n'a jamais été dans la culture de Canal+ de faire une chaîne spécifique pour ce que fait Sky Sport. Sky Sport, ils ont décidé de faire une chaîne spécifique. En France, Canal+, ils font ça avec Foot+ et Rugby+, mais je crois que il y a une des deux chaînes qui est peut-être sur le point de fermer ou en tout genre, c'est pas assez rentable. C'est pas dans la philosophie de Canal+, et en plus je crois que c'est des chaînes en plus de l'abonnement. Donc déjà quoi qu'il arrive, vous êtes déjà obligé de vous abonner. Donc c'est pas dans la culture de Canal+ abonnement sur mesure.
Sachant que tu prends, parce que bon, c'est une chaîne gratuite, faut voir que ils sont plus équipés que nous aussi, hein, les Anglais en satellite. J'avais regardé en comparaison, ils payent autant, hein, parce que
voire plus.
Par contre, il y a beaucoup plus, ça faut le dire. C'est-à-dire que pour 40 livres et quelques, t'as tout un bouquet satellite de base, plus l'option sport où t'as toutes les chaînes sport, dont la chaîne F1.
Ah, il faut pas payer en plus pour la chaîne F1.
Non, c'est inclus. C'est inclus dans ce qu'ils appellent le pack sport, en fait.
D'accord.
Et en Allemagne, c'est à peu près. Enfin, de toute façon, les prix du satellite, c'est à peu près toujours dans les mêmes eaux. Sachant que le sport est rarement inclus dedans. C'est-à-dire que t'as le prix de base et puis ensuite t'as un pack. Où là, par contre, dedans, t'as la retransmission avec la chaîne qui diffuse la F1.
Non, et puis fondamentalement, le sport n'est qu'un produit. Enfin, on parle là de sports professionnels qui sont des produits. Il y a effectivement cette loi sur le Grand Prix de France. Moi, je vais me battre pour que reste gratuitement à la télévision et en clair les Jeux Olympiques, enfin des trucs qui mettent en avant mes équipes nationales ou qui mettent en avant le Grand Prix de France, par exemple. C'est normal que ce soit en clair parce que ce sont des événements fédérateurs, des événements nationaux. Après, on peut pas demander au sport, si on commence à dire que la F1, il y a un droit à voir la F1 en clair parce que c'est un sport populaire, bah oui, mais faut quand même pas oublier, c'est que depuis 20 ans, la F1 est quand même quasiment, c'est le seul sport qu'on peut regarder en intégralité et suivre en intégralité sur une chaîne en clair. Il y a très peu de sports dont certains font 10, 15, 20 fois plus de licenciés que la Formule 1 ou que le sport auto en général en France qui ont la chance d'avoir une telle diffusion que ce qu'a eu la Formule 1 depuis 10 ans. Donc, faut toujours un peu relativiser. Moi, j'ai un peu une pensée pour les fans d'autres sports qui ont pu lire certaines déclarations de certains fans de Formule 1 qui se sont dit, mais attendez, mais vous foutez de notre gueule, quoi. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez eue. Aujourd'hui, on se retrouve dans la peau des fans de tennis qui ne veulent pas voir que Roland Garros. On se retrouve dans la peau des fans de foot qui ne veulent pas voir que les matchs de l'équipe de France de foot. Des fans de hand, enfin, même le hand, qui est pourtant aujourd'hui notre équipe nationale qui nous rapporte le plus de trophées, un peu en ce moment. Même eux, on ne les voit quasiment pas en clair. Enfin, voilà, à un moment donné, faut aussi se rendre compte qu'on a été dans une position de privilégié et qu'aujourd'hui on perd ce privilège. Voilà, c'est triste. Après, c'est aussi la réalité, quoi. C'est un produit, c'est un sport, c'est un produit. C'est pas quelque chose de vital, pas quelque chose de fondamental.
Ouais, et puis comme tu le dis, enfin, tu l'as rappelé plusieurs fois dans les commentaires, puis là ce soir, c'était un privilège et pourtant les audiences ne faisaient que baisser. Il y a ça aussi. Il faut quand même aussi se rendre compte de ça. Là aujourd'hui, là, tout le monde se ramène. Oui, alors, je regardais la F1, machin. Oui, enfin visiblement, vous oui, mais il y en a d'autres qui apparemment faisaient le chemin inverse. Et pourtant, c'était gratuit. Vous pouvez pas reprocher à TF1 ou à Canal de voilà. Tu vois, c'était à ce moment-là, il y avait quand même un vivier de fans qui déclinait.
Et même TF1, on peut les comprendre, quoi. Aujourd'hui, quand ils mettaient Walker Texas Rangers, ça faisait autant d'audience que la F1. Enfin,
bah après, ils ont rien fait non plus pour moins cher.
Voilà. Donc après, c'est sûr qu'en termes d'image pour la chaîne, bon bah c'est pas, ça, ils perdent un produit prestige, c'est certain. Mais en termes d'audience, parce que c'est ce que regarde la TF1 aujourd'hui, en termes d'audience et en termes de rentabilité, la Formule 1 n'était pas un produit rentable. Là où aujourd'hui, ils peuvent te foutre, ils vont te remettre les experts, Dr House et compagnie, on va en bouffer pendant des années à cette case horaire. Mais enfin voilà, où là pour le coup.
Oui. D'ailleurs, il y a parfois eu des critiques sur, oui, ils préfèrent diffuser tel ou tel programme. Et bah oui, mais TF1, ça a jamais été des philanthropes. Hein.
Non.
Ils ont jamais diffusé la F1 par amour de la F1 et du sport. Hein.
Et rappelons que TF1 est une chaîne privée, donc ne dépend pas de la redevance.
Non, enfin plus depuis 1987, voilà. Pour être précis.
C'est fou qu'il y ait autant de gens qui ne sachent pas ça, quand même.
Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que TF1 est une chaîne publique. Hein.
Et même la redevance, hein. Payer la redevance ne te donne pas le droit à exiger des programmes. Payer la redevance, c'est pour financer la diversité des programmes sur les chaînes publiques, donc que ce soit les chaînes télévisées ou les chaînes radiophoniques ou les groupes radiophoniques. Et donc, c'est mettre en avant la culture et compagnie. La Formule 1, c'est certainement pas là-dedans que on va mettre l'argent public, quoi. C'est à un moment donné, faut être réaliste, quoi.
Quelque chose à rajouter, un dernier point final, ou on passe à autre chose?
Non, parce que maintenant il faut qu'on ramarre un petit peu nos auditeurs suisses, canadiens, marocains et compagnie, enfin que tous les auditeurs du monde qui sont pas français qui s'en branlent de ce qu'on dit depuis le début.
Surtout qu'on en parle de la F1, et quoique ils s'en branlent, mais vu comment ça s'éteint, tu sais, bon, les Canadiens, je crois que c'est déjà payant chez eux, bon, mais les Suisses, les Belges, espérons que eux ils échapperont à tout ça, hein, donc
Et heureusement pour les étrangers que ça va être chapitré.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que rappelons que SAV maintenant est chapitré sur le site savf1.fr, www.savf1.fr. Vous avez les émissions chapitrées, donc vous n'êtes pas obligé de tout écouter.
Heureusement, parce que mais là, c'est quand même pas parlé un quart d'heure.
Mais donc, justement, parlons-en de la F1, parce que nous, on va pas s'arrêter juste parce que ça passe en payant. Raison de plus, nous, on est gratuit, donc profitez-en. Nous, on est un média gratuit qui parle de la F1.
Année.
Oui, parce que l'an prochain, c'est 15 000 euros.
C'est une
négociation. En fait, on vous explique un truc. On va devenir super cher, ce qui fait qu'en fait, vous trouverez que Canal, c'est pas si cher que ça.
C'est ça le truc, en fait.
Et alors, on a plusieurs points. Hein. Merci Fab hein, pour ces...
C'est toujours un plaisir.
Oui. Et commençons par le point pilote. Puisque là, on a eu plusieurs nouvelles ces dernières semaines. On a eu certaines officialisations, hein, comme Guido van der Garde. J'ai avoir du mal à le dire celui-là, je le sais.
C'est pas Guido.
Ou c'est Guido.
Non, c'est Guido. Guido van der Garde.
Ça s'écrit Guido, mais je crois qu'en néerlandais ça se dit Guido.
Ouais, bah, c'est maintenant, faut qu'on dise comme les néerlandais.
Il peut pas s'appeler Diego comme tout le monde déjà, hein.
Libre dans sa tête. C'est des micro-chants. On a le droit, c'est des micros pour le chant.
Oui. Oui. On a Luis Razia qui va peut-être faire un passage très court en F1.
Non, non, regarde.
J'ai dit peut-être.
Théorique.
Et donc Force India, dont on ne sait toujours pas qui c'est. C'était d'ailleurs très drôle pendant les essais. Ah oui, un Bianchi roule, hein, c'est la preuve qui va être officialisée. Non, c'est pas un truc. Et puis 4 jours plus tard, ah mais Sutil roule, hein, c'est la preuve qui va être officialisée. Non.
Non mais c'est, en plus c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord on a eu Bianchi qui roulait, donc c'était assez positif. Après,
oui,
il y a eu la rumeur, enfin le fait qu'il avait moulé son baquet Sutil, puis on savait qu'il allait rouler, donc là tout d'un coup ça dit, oh bon c'est Sutil et compagnie. Et en fait, quand on a eu le programme de Barcelone, il y avait Sutil et Bianchi. Donc on s'est dit, bon bah c'est l'un des deux. Et là on ne sait toujours
pas. Et Kartikeyan est plus dans la course.
On est le 26, on ne sait pas. Alors que ouais, Kartikeyan c'est mort. C'est dommage.
Oh, c'est triste.
Ça aurait du sens. Il est indien, une écurie indienne, il a de l'argent, ils veulent de l'argent.
Oui, c'est vrai que l'identité nationale a vachement réussi à charter.
Ça aurait quand même été intéressant de le voir, enfin, chez Force India, Kartik Eyan, de le voir avec une voiture plus compétitive que qu'une HRT. On aurait peut-être pu mieux situer son niveau parce que le voir à chaque fois en fond de grille, bah c'est comme les pilotes Marussia. Là, on va pas pouvoir savoir qui de la voiture ou deux sera qui seront en fond de peloton quand même. Hein, ça, je pense que c'est un des seuls trucs qu'on peut tirer des essais.
Alors Sutil, il aurait 5-6 millions, c'est ça. Bianchi, il a surtout un gros moteur Ferrari avec le côté de lui. Vous voyez, c'est comme dans les James Bond où il y a un chat. Bah lui, c'est où il y a un méchant avec un chat. Lui, c'est pareil, sauf qu'il a un beau V6 4 cylindres.
Il le caresse pas.
Si, il le caresse.
le ronron est plus fort.
Et si Sutil n'a pas le baquet, il peut payer des abonnements pour 1,5 million de personnes.
Ouais.
D'abonnements Canal.
Il va payer un verre plutôt. Non, mais c'est vrai que la situation est quand même. Enfin, c'est long quand même. C'est un peu longage.
Ah puis là, en plus,
ça devient un peu stupide.
On est fin février quand même.
Mais on se demande même si c'est pas justement, on fait pas rentrer Sutil dans la danse pour faire monter un peu les enchères par rapport à Ferrari. Il faut pas oublier qu'on est dans un contexte de négociation, que Ferrari ne cache pas que pour eux en ce moment c'est important d'avoir des écuries clientes. On parle là d'un motoriste Honda qui pourrait revenir avec un projet. Enfin, je n'approfondis pas, mais on parle de Honda qui pourrait revenir. On parle de Toro Rosso qui pourrait aller chez Renault l'année prochaine. Donc Ford Force India, ils sont aussi malins, ils regardent un peu le marché, ils savent que Ferrari, ils ont besoin de deux écuries clientes pour s'en sortir financièrement avec le moteur, pour le rentabiliser. Donc voilà, ils jouent aussi un peu là-dessus et ils vont essayer de faire monter maximum les enchères en mettant le plus possible Bianchi en concurrence avec Sutil, en disant voilà, vous voyez, nous on n'a pas que Bianchi comme possibilité, on a aussi d'autres solutions. Je pense aujourd'hui que pour moi, Sutil sert davantage de d'objet de chantage envers Ferrari plus que véritablement de piste première. Je pense que Bianchi est le favori. Maintenant, tout va dépendre des négociations avec Ferrari. Ouais.
C'est un jeu dangereux parce que mine de rien, Bianchi a roulé quoi ? Il a dû rouler une journée à Jerez de mémoire. Là, il a roulé une journée. C'est pas de bol, c'est tombé la journée où il a plu. Bon, c'est pas comme si on avait beaucoup d'essais privés durant l'année.
Bon, après, il connaît bien l'équipe.
Je pense pas qu'il soit... Mais je pense pas qu'il sera loin du compte. Mais c'est pas facile quand même. Faut se souvenir que c'est un pilote débutant. Là où Sutil justement a déjà une petite expérience. C'est pas forcément la meilleure situation pour se retrouver dans le baquet. Parce que moi, j'imagine que là, ils vont quand même officialiser avant la prochaine session d'essais.
Mais ça, c'est l'intérêt du pilote.
Oui.
Parce que l'intérêt,
j'ai cet espoir.
Mais c'est pas demain, jeudi?
Ouais, je crois que c'était ce soir ou demain, je crois.
Ou alors, ils attendent même.
Qui sait, il y aura peut-être un truc, comme on dit, sur
le vendredi matin.
Il y aura peut-être un truc sur les téléscripteurs pendant qu'on enregistre.
Non, le vendredi soir, Fab, le vendredi soir. Le matin, on met Bianchi, l'après-midi, on met Sutil, la fin, on voit. Les équipes peuvent faire rouler leur pilote le vendredi, enfin, ils sont pas obligés de mettre leur titulaire le vendredi, donc, bon.
Ouais, ça rappelle les présentations des super agouris dans la voie des stands à Medellin.
T'as les mecs vont venir avec une biplace, tu sais.
Mais après, est-ce que vous pensez qu'il serait, j'ai mis l'hypothèse sur le live, d'avoir les deux pilotes dans le baquet, c'est-à-dire par exemple sur les grands prix extra-européens ou que Bianchi ne connaît pas, mettre Sutil, et puis sur les grands prix européens, là où Bianchi connaît un peu mieux les circuits, mettre Bianchi. Ce qui permettrait à Sutil, lui, d'abord, de se refaire un pas en Formule 1, parce qu'il a dit que les essais à Barcelone étaient sa dernière chance. Donc lui, ça lui permet de se remettre le pied à l'étrier sur quelques grands prix pour pouvoir trouver une place de titulaire en 2014, et à Bianchi de se préparer dans de bonnes conditions sur des circuits qu'il connaît.
Est-ce qu'ils veulent, est-ce que par exemple Ferrari, parce qu'a priori il serait derrière, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de partager un baquet, par exemple. Je pense que pour eux, c'est le baquet toute l'année ou rien. Alors que peut-être que du côté de Sutil,
après, si c'est un compromis, ça peut être un compromis aussi avantageux pour eux. Hein. Pas forcément faire baisser le prix, mais disons que pour Force India, ils alignent Sutil avec les millions qu'il peut apporter, donc ça leur fait gagner de l'argent à eux immédiatement. Et puis derrière, ils ont le moteur Ferrari pour pas cher.
Et en 2014, ils mettent Sutil et Bianchi, parce que de toute façon, dirait ça, il est avec le moteur Mercedes, donc s'il dégage le moteur Mercedes,
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Non, je pense surtout, c'est qu'il reste envie de se barrer.
Alors, commence la page transfert 2014, là, déjà?
Je pense que... Mais non, c'est mais parti. Bon, il a avoué qu'il était en discussion avec McLaren avant que McLaren ne choisisse Perez. Bon. D'ailleurs, ça a donné lieu à un petit échange entre les deux hommes, donc c'était sympa.
Moi, j'y crois pas un seul instant à l'alternance des baquets. Je crois pas que les sponsors de Sutil seront ouais. très d'accord. Mais bon, d'accord, on met tout ce qu'on avait dit, mais pour faire la moitié des grands prix. avant? Non, et puis je vois pas, pareil, du côté de Bianchi, je vois pas Ferrari ouais. dire, bon, très bien, ça me paraît être une bonne solution.
Et puis, la dernière fois que c'était prévu sur toute une saison, c'était Red Bull en 2005.
Ouais, ça.
Et ça a pas tenu un moment, ils se sont dit, bon, ça suffit, on met, c'était Klein qui était resté titulaire.
Ouais,
au final,
ça lui aussi.
Parce que, pour l'équipe qui, la deuxième équipe qui gère la deuxième voiture, ça doit être compliqué de jongler entre l'un et l'autre, quoi, de changer les réglages, etc. C'est revoir des méthodes de travail, ça doit pas être facile dans le relationnel.
HRT avait fait mieux, ils avaient jonglé entre trois pilotes. Ouais. Il y avait Shandok, il y avait comment il s'appelait, Yamamoto.
Ah oui.
Et il y avait Senna, je crois.
Et il y avait eu
ça jonglait, c'était sympa.
Et il y avait oui, c'est vrai. Et pourtant il y avait pas plus toujours de sponsors sur la voiture.
Non.
Ah non, mais qu'est-ce qu'on se marre.
Cette année, il n'y a plus de voiture. Ils ont compris. Ils ont dit, ça sert à rien qu'on en fasse une. De toute façon, il n'y a pas de sponsor dessus. On n'a pas de stickers, si... les mecs. Ça sert à rien.
Sinon, pour Radia, est-ce qu'il est déjà sur un CG éjectable? Ce qui est moche, quand même. Parce que...
Il est peut-être même déjà éjecté.
Oui.
Mais alors, ce qu'explique Radia, c'est qu'il y a un de ses sponsors, parce que c'est un paquet, il y a un de ses sponsors, alors, qui n'a pas fait le versement, ou qui l'a fait, mais que c'est pas pour des questions administratives. Enfin, c'est pas très clair, quoi. Mais, après, rien n'est fini. Enfin, de toute façon, dans la position de Radia, s'il ramène son sponsor d'ici Melbourne, il sera Melbourne.
Ouais.
Voilà. Qui y a d'autres sur le marché aujourd'hui? S'ils ont pris Radia en premier choix, c'est que c'est aujourd'hui lui qui offrait le plus de garanties financières.
À moins.
Imagine, il rappelle Timo Glock le jeudi.
Timo, reviens. Ouais, mais pourquoi pas Bianchi avec le moteur
ouais. Marussia Ferrari
contre le moteur Ferrari.
Alors ça a beaucoup débattu d'ailleurs pendant l'intersaison sur l'explosion des pilotes payants. Alors enfin explosion. En tout cas, il y en a beaucoup cette année.
Ça débat tous les ans.
Alors je pense que cette année, ce qui est chiant aux beaux yeux de certains, c'est que bon, en effet, ça tourne toujours. Il y en a toujours un certain nombre tous les ans. Là, le problème, c'est qu'ils prennent la place de gens qui étaient là depuis quand même quelques saisons.
Mais ils s'en foutent, ils verront pas la Formule 1.
Ah non, pas cet argument à deux balles, non, on peut pas commencer la saison comme ça.
J'ai lag. Déjà, ça a été dur de me retenir sur Radia.
Donc pour vous, définitivement, cette année, c'est pas exceptionnel, pas plus que d'autres saisons.
Comme on disait tout à l'heure, il y a le fait que il y a des pilotes comme Kovalainen qui avait fait du très bon travail avec Caterham qui joue dans la balance, que Glock aussi qui était là depuis 2008 est touché, mais sinon enfin c'est plus un reflet de la situation économique qui fait que les écuries ont du mal à boucler les budgets, qui fait qu'il faut en faire appel aux pilotes payants, mais sinon ça a toujours été il y a toujours eu des pilotes payants, il y en aura toujours et ça on pourra pas l'empêcher.
Et le truc c'est que là ça remonte en effet jusqu'à dans la hiérarchie Williams, Force India, enfin au-dessus, voilà, c'est vraiment les top teams quoi.
Bah ouais, mais les équipes qui sont déficitaires, pas de secret. Je sais plus, c'est cet hiver donc paru un article qui mettait en avant le fait qu'il y avait trois ou quatre écuries, les quatre écuries de pointe, enfin les trois en comptant Mercedes, qui faisaient des bénéfices. Le reste après c'est déficitaire, donc faut imaginer que même Lotus est déficitaire. Donc on est face à des pilotes qui apportent une manne financière. Alors je sais plus exactement, mais je crois que ça se compte en vingtaine de millions de livres sterling, je crois, pour les deux plus importants qui doivent être justement Radia, bon apparemment c'est moyen quand même, et Shilton. C'est quand même une manne sur laquelle tu peux pas cracher quand tu es en difficulté et quand tu veux rester en Formule 1. Après c'est aussi la volonté de ces écuries-là de rester en Formule 1, et pour rester en Formule 1, malheureusement, moi je le vis pas mal, je trouve que c'est une bonne chose, et puis enfin on est quand même pas sur les pilotes payants du début des années 90 ou de la fin des années 90, qui étaient vraiment des pilotes payants pour le coup, qui s'achetaient le droit de rouler en F1 en n'ayant rien prouvé avant, oui. Et en ne prouvant rien d'ailleurs au volant d'une Formule 1.
Ouais, des mecs là, on est quand même, quoi.
Voilà, mais c'est ça, c'est des gars qui voilà, qui étaient soutenus par leur par des sponsors de leur pays qui avaient aucun talent. Là, on est quand même face à des pilotes qu'ont pas forcément des palmarès énormes, mais qui ont roulé dans les catégories inférieures ou ont déjà roulé les top pilotes du plateau. Donc j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Après, j'ai un peu plus de réserve quand tu alignes comme chez Marussia deux pilotes très, enfin comme chez Marussia ou même comme chez Caterham d'ailleurs, des pilotes très peu expérimentés. Là, je pense que à mon avis, hein, il va y avoir un problème au bout d'un moment, mais après je n'ai pas de réserve particulière.
Par contre, ce qui fait un petit peu peur, c'est que bon, on a le deuxième, le troisième, le cinquième et le sixième du GP2, je crois, qui arrive du coup, oui, en tant que titulaire, oui. Et que vu le niveau du GP2 l'année dernière, ça peut éventuellement faire peur parce que il y avait beaucoup, ouais, d'accidents, etc. Et les lancer dans le bain tous en même temps, c'est peut-être pas forcément c'est peut-être ça qui est plus qui interpelle plus que le fait que ce soit des pilotes payants, quoi.
Rien d'autre, messieurs?
Oui, non, moi c'est sur les pilotes qu'ont disparu à cause de ces pilotes payants. Mm-hmm. Enfin, bah, c'est les jeux du marché, hein. Moi, sincèrement, je suis pas triste. Enfin, je vais notamment m'attarder sur le cas des Kiko Valainen, qui est un pilote que j'adore et que j'aurais aimé voir plus haut. Maintenant, il faut pas non plus oublier le fait, c'est qu'aujourd'hui, Kovalainen, mais aussi Timo Glock, payent des choix de carrière qu'ils ont fait il y a 3 ans, et que, encore une fois, c'est un peu comme sur Canal+, c'est qu'encore une fois, on se mobilise, alors que la guerre, on l'a vu venir avant, quoi. C'est déjà dès 2010, en voyant Kovalainen et Kovalainen, Trulli et Glock aller chez Caterham et chez Marussia. Bon, on était content parce qu'ils trouvaient un baquet, mais en même temps, c'était quand même partir de très loin dans des écuries qui n'avaient même pas un background en Formule 1. Voilà, donc on s'est peut-être aussi fait des illusions il y a 3 ans en disant « Ah, ils vont réussir à construire ces équipes-là », et c'est ce qu'aujourd'hui dit très bien d'ailleurs Cyril Abitboul, qui est le patron de Caterham, où il dit « Voilà, c'est aujourd'hui, pour nous, il faut avant tout asseoir l'équipe, lui donner un avenir. On a commencé à aligner des vainqueurs de Grand Prix dans des écuries qui avaient rien, mais rien du tout, en termes de matériel, en termes d'expérience, en termes... Enfin, voilà, c'est pas en prenant des ingénieurs expérimentés et en prenant des pilotes expérimentés qu'on fait une écurie de Formule 1. Il y a beaucoup de choses, il y a de l'assise financière, il y a des réseaux à tisser sur le truc. Donc moi, à la limite, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'a fait Timo Glock en disant l'écurie lui a demandé s'il était prêt à partir, lui, il était d'accord, il s'est lancé dans un nouveau projet, le DTM, je sais par exemple, parce que c'est une de ses grandes fans et qu'elle l'a dit, que bah, elle était pas forcément très triste, c'est Alexane qui est pas forcément très triste que Timo Glock parte, parce que
c'est vrai que si fondamentalement, on
il va aller en DTM et il va performer en DTM, il va faire des bonnes choses. Donc voilà, moi ce que je regrette, c'est que Kovalainen n'ait pas prévu sa sortie, c'est Kobayashi n'ait pas de solution de sortie, c'est que ça se fasse un peu à l'improviste. Mais sinon, en dehors de ça, moi je préfère à la limite voir Kovalainen briller en endurance, en WTCC ou je sais pas quoi, ou en rallye, se relancer un nouveau défi plutôt que de végéter au fond de peloton. Parce que quoi qu'il arrive, ils étaient en train de faire, quoi. Et là, j'en vois, enfin, la première réaction quand il y a eu la rumeur sur Scorpion Racing, c'est-à-dire, ah, un baquet pour Kobayashi. Mais non, mais si vous êtes vraiment fan de Kobayashi, encouragez-le à aller voir ailleurs, quoi. À moins qu'il trouve un baquet en Formule 1 dans une écurie installée, ce mec a un talent, il va pas aller gâcher dans Scorpion Racing, qui est encore une écurie qui va venir de nulle part, qui aura aucune fondation, qui aura très peu de sponsors, et qui va végéter en fond de classement, quoi. Ayons, voilà, si on aime vraiment nos mecs, faut savoir aussi leur dire, t'as pas réussi en Formule 1, t'as pas trouvé les opportunités, ça arrive, c'est la loi du marché.
Mais ça veut comme pas ça, dire quoi, que tu peux pas briller autre part.
Maintenant, leur tour est passé. Ça me fait chier pour Kovalainen, qui est un pilote que j'adore, et pour les autres, parce que je comprends les autres qui perdent leur pilote en Formule 1. Mais la Formule 1, c'est aussi ça, quoi. C'est malheureusement c'est continuel, quoi. Il y a que les grands champions qui s'installent sur le long terme.
Allez, on va passer à l'actu suivante. Un sujet dont on devrait beaucoup parler cette année, c'est les moteurs. Donc pas ceux de cette année, ceux de cette année on les connaît, ceux de 2014, avec deux actus principalement qui se sont croisés dans les 2-3 derniers jours. D'une part, la présentation du V6 Renault, et la rumeur qui est sortie aujourd'hui, peut-être le retour de Honda. Alors on parle 2014, peut-être plutôt 2015, on verra ça.
le fait que Renault présente son moteur, c'est intéressant parce que ça permet de mieux se rendre compte des défis qui vont pointer, qui ont déjà pointé le bout de leur nez aux ingénieurs. Parce que en plus du moteur thermique avec le turbo, etc. Donc il y a les systèmes de récupération d'énergie qui seront vraiment beaucoup plus débridés qu'actuellement, parce que actuellement c'est ben, si tu compares le KERS de maintenant et le KERS de 2014, enfin le KERS actuel, c'est peanuts quoi.
C'est 33 chevaux, c'est ça.
Alors oui. Alors aujourd'hui c'est
c'est impressionnant. Ouais, ça.
Aujourd'hui 80 chevaux sur 6 secondes 7. Et donc l'année prochaine, ce sera 165 chevaux à peu près pour pendant 33 secondes effectivement. Donc vu que le V6 turbo sera pas aussi puissant lui-même que le V8, il y aura beaucoup de boulot à faire sur le KERS et en plus donc sur le HERS qui permet de booster un peu le turbo, comme on l'avait expliqué l'année dernière d'ailleurs, à la réaccélération.
Weber, il va redouter les problèmes de KERS. Là, je vais te dire.
Marc, arrête-toi à la fin de l'année.
C'est clair. Laisse la place, Marc. C'est fini. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant, surtout l'interview de Jean-Michel Jaligny.
C'est celui qui est trop vieux pour être à son poste.
Ouais. C'est très intéressant parce que c'est vrai que tu vois que là il y a un réel développement possible qui sera une certaine liberté dans le développement qui sera laissée au moins apparemment sur les deux premières années pardon. C'est quand même aujourd'hui le moteur un domaine bien gelé pour le coup et qui constitue
normal,
un point de développement voilà.
Oh, point de développement, ouais. Stop. Dino, tu as gagné ton gage de 5 millions. Ah. Tu sors.
Oh merde.
Voilà, ouais, continue.
Ah bon, on est mieux. Non mais voilà, c'est un endroit de développement qui va être assez intéressant alors qu'aujourd'hui on est plus porté sur l'aérodynamique, sur ces aspects-là de la Formule 1 et puis c'est aussi un moteur qui va se rapprocher un petit peu plus des moteurs des voitures de série, c'est ce qui est mis en avant du côté de Renault par exemple. Mais pour revenir aussi à l'information d'aujourd'hui, celle du retour de Honda, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où on en avait déjà un peu parlé l'année dernière, on se posait la question par rapport à McLaren notamment, dont on sait qu'ils ont un partenariat qui va bientôt s'achever avec Mercedes. On peut
en tout cas
estimer,
le contrat.
On peut estimer que c'est un investissement intéressant, d'autant que par le passé, c'est vrai que ça fait toujours un peu rêver, mais McLaren Honda est marqué une grande époque de la Formule 1 et puis c'était en plus le turbo, même si ça aura bien sûr pas grand chose à voir. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans l'interview de Jaligny, c'est quand il parle de l'accord avec Red Bull, parce que c'est vrai que beaucoup on était beaucoup à penser que s'agissait d'un contrat, en réalité c'est plutôt une sorte d'accord verbal, en tout cas d'accord qui est moins formel qu'un contrat, et on apprend qu'il n'y a pas forcément, alors même si on peut penser que ce sera évidemment le cas, mais il n'y a pas forcément c'est pas signé qu'il y aura fourniture du moteur à Red Bull par Renault, et donc ça c'est intéressant dans la mesure où justement peut-être que, enfin bon, ça c'est vraiment de l'extrapolation, mais c'est vrai que le retour d'Honda peut être intéressant dans ces perspectives là
après, s'engager avec Honda pour Red Bull, faisant un peu de prospective, si Red Bull veut s'engager avec Honda, c'est quand même un risque à prendre parce que Honda a quitté la F1 en fin 2008. Alors ils ont peut-être une cellule de veille, mais rien ne dit qu'ils sont en train de travailler dessus. Si c'est le cas, ils sont peut-être en retard, parce que Renault.
Et puis c'est des gens qui ne se connaissent pas. Alors que c'est vrai que McLaren, bon, même si en effet il y a aussi le même problème, hein, parce que ça fait quelques années, on se doute bien qu'il y a des gens qui ont dû travailler. Enfin, il y a des gens qui se connaissent. Oui. Il y a des liens qui existent qui font que voilà, ils pourraient même développer ensemble le truc.
Oui, non, mais après c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée que l'accord n'est pas un accord formel, n'est pas un accord figé, c'est pas un contrat. Ça m'a beaucoup étonné. Et puis bon, alors, on peut estimer que c'est quand même quelque chose de fiable. Hein, ça vient de quelqu'un qui travaille chez Renault Sport. On est quand même sur du très fiable. Moi, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai lu ça, parce que alors certes, évidemment, c'est pas gage de sûreté absolue les contrats, mais intéressant de savoir que l'équipe qui domine là depuis trois saisons n'est pas certaine de son moteur.
Ce qui est surprenant, c'est que les liens avec la galaxie Renault, donc en incluant Nissan dedans, Infiniti, tout ça, enfin se sont renforcés cette année avec le partenariat de sponsor titre. L'écurie s'appelle Infiniti Red Bull Racing, c'est quand même autre chose, quoi. Enfin, et du coup que ce soit pas encore coulé dans le marbre alors que dans un an les V6 turbo seront sur la piste, quoi. Enfin, il va falloir rapidement sceller ça dans le marbre, parce que tu t'intègres pas un moteur comme ça à la dernière minute. Même si dans le règlement il y a des facilités pour changer de moteur facilement, parce que il y a les points d'attache entre autres qui sont définis qui sont obligatoirement à certains endroits sur le châssis, mais en tout cas même avec ça on change pas de moteur en claquant du doigt.
Après dans l'interview on voit que grand maximum il se limiterait à 5 fournitures, sachant qu'apparemment Toro Rosso serait potentiellement une écurie à pourvoir.
Eux-mêmes disent que ça a du sens vis-à-vis de Red Bull.
C'est sûr, après, enfin, ça a du sens. Normalement, non, ça devrait avoir de moins en moins de sens, ce genre de choses. Mais visiblement, il reste des petits liens. Voilà, mais c'est vrai que... Après, quand on parlait du moteur tout à l'heure, on parlait de Force India, avec apparemment la croisée des chemins, finalement, entre le choix entre Mercedes et Ferrari. Enfin, c'est assez intéressant. Là, c'est difficile, là, tout de suite, de faire une liste, hormis, bon, bah, bien sûr, les motoristes et les constructeurs qui... Voilà, il n'y a pas de problème. Sans doute Lotus, on voit mal Lotus sortir du giron de Renault, et Williams non plus, mais après, c'est pas forcément évident de savoir qui va poursuivre sa route avec qui à ce niveau-là. Et puis c'est normal aussi, c'est quand même la période, un changement réglementaire très important qui va concerner principalement le moteur. Voilà, on est face à un choix pour les écuries et pour les motoristes aussi, hein. On peut parler de Cosworth. Bon, je pense qu'on est très peu là autour de, enfin dans cette émission, à penser que Cosworth sera encore présent l'année prochaine, quoi. C'est à ce niveau-là, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que pour revenir sur le moteur de 2014, 33 secondes de Kers, enfin moi ça me paraît incroyable, quoi.
Tu prends un circuit comme Monaco, c'est même pas sûr qu'ils arrivent à caser 33 secondes d'accélération.
Mais oui, mais c'est ça.
Non, sur les autres, franchement, il y a moyen, ouais. Parce que t'entends toujours, même les circuits où t'accélères le moins, où t'as le moins de pourcentage, sur 60%, 60% d'une 15, d'une 20, ça fait largement 33 secondes.
Et d'ailleurs, parce que ça a été évoqué, je me demande si c'était pas dans les commentaires, à partir du moment où on a un 15 de 33 secondes, est-ce qu'on l'active ou pas? Est-ce que c'est automatique? Parce qu'ils ne pourront pas s'en servir à chaque
plus
tour.
Qu'avoir un bouton où tu restes appuyé, t'appuies pour activer, tu rappuies pour désactiver, quoi. C'est un peu comme le DRS est un peu comme ça en ce moment, donc par ceux qui ont des pédales, qui font ça avec des pédales, mais... Enfin, cela ne nous regarde pas, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les 5-6 dernières minutes ont été reposantes.
On va faire un cœur.
Oui.
C'est bien ce petit truc, en fait.
Genre bavette cette année.
Mais en fait, c'est moi qui ai lancé cette idée exprès justement pour avoir des micro-pauses dans l'émission. Ça, je parle trop, je fais trop de contenu.
Donc ça, il peut se reposer, son petit
pissou.
Oui, une
petite sieste. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. En fait.
J'ai mangé un Magnum.
Et enfin, dernière actu principale, c'est les essais libres. Donc on a eu deux séquences, hein, d'essais libres sur RRS et les premiers de Barcelone. On attend les derniers. Là, peut-être, on aura enfin une vraie hiérarchie. Alors, comme d'habitude, on a beaucoup parlé de pneus. On a beaucoup parlé de météo et on a beaucoup parlé de mais cette équipe, est-ce qu'elle cache son jeu?
Ah, moins quand même.
Bah, c'est les équipes qui disent qu'elles cachent leur jeu.
Voilà.
Genre aujourd'hui, on a Dominique Ali chez Ferrari qui dit non mais on sera pas là pour se battre à la première course et compagnie. Chez McLaren, non mais on a des difficultés et compagnie. Enfin, t'as un peu l'impression que tout le monde cherche à se minimiser, tu vois. C'est non, on n'est pas.
Oui, mais franchement, même Mercedes quand ils disent oui, on visera le top 10. Ouais, franchement, non, là, même eux, j'ai du mal à les croire.
C'est clair.
Ouais.
Bah c'est leur objectif, hein. Ils sont, pour moi, c'est la cinquième écurie, hein. Donc le top 10, c'est leur objectif, quoi. Oui. Si les quatre autres passent devant. Mais bon, c'est que les, on sait très bien que Lewis est capable de mieux. Bon, Rosberg, on sait pas, mais.
Oui. Ils ont pas été gâtés quand même pendant leur session.
Bah, surtout Rosberg. Rosberg, pour être transparent, ouais.
Il faut un Rosberg titillé, quoi. Parce que le Rosberg de fin de saison de l'année dernière, ou même de la fin 2011.
Le Rosberg.
Le Rosberg.
Sinon, on n'a pas eu de grosses nouveautés, en tout cas visibles, oh oui. À part les échappements.
Oh oui, il y en a eu pas mal, quand même. Ce choix chez Williams, chez Sauber, chez McLaren qui a ses suspensions.
On a beaucoup parlé des échappements.
Ouais, on parle beaucoup des échappements, mais en fait, en parlant des échappements, ouais. Il y a quand même pas mal de choses, notamment chez Williams, il y a l'écrou de roue qui a une fonction aérodynamique maintenant. Enfin, c'était illégal chez Red Bull l'an dernier parce que la pièce tournait, mais là, la pièce tourne pas, donc du coup, c'est plus illégal. Il y a les petites ailettes des échappements chez Caterham et chez Williams. Il y a les fameux pontons de la Sauber qui ont été inspirés par le crash de Perez il y a 2 ans à Monaco. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. C'est toujours les échappements, on sait très bien, c'est les échappements qui vont apporter le plus de performance, mais dans le fignolement et tout, il y a quand même pas mal de choses qui ont été apportées.
Les petites ouvertures aussi sous le museau de la Ferrari et de la Red Bull.
Ouais. Enfin, on sait pas trop encore à quoi ça sert.
Ouais, mais l'année dernière sur la Red Bull, le truc boîte aux lettres là, letterbox qui disait,
ouais.
Ah oui,
c'était que pour le refroidissement. New Way avait dit pour le pilote et l'électronique. Il a dit ça dans l'intersaison. Et franchement, mettre une fonction aérodynamique ici, alors que le flux d'air il est pas spécialement différent. Il est pas spécial, le flux d'air il est droit à cet endroit-là, tu peux pas en faire grand-chose. Là où tu peux faire des trucs, c'est tu mets des ouvertures en dessous d'un aileron ou sur un aileron, là où les pressions de l'air elle est différente. Alors que sous le museau elle est à peu près pareille, quoi.
Ah, ils sont très contents de l'électronique cette année, vous avez remarqué. Ils ont changé les CU. Ah, il paraît que tous les jours il y a des missions.
C'est beau, McLaren.
C'est super beau. Pourtant, le précédent, enfin, il y a eu des soucis. Mais
en IndyCar et en NASCAR, ils étaient très cons.
Mais il faut expliquer en fait que comme tous les logiciels vont devoir changer pour 2014, ils ont déjà changé les
modèle. Ouais. Voilà.
Mais bon, le problème c'est que voilà.
Sauf qu'il est buggé, voilà, comme pas possible.
Je l'ai envoyé un CV, moi c'est pas possible.
C'est le moment de se placer.
Ça bug tellement qu'en effet, il paraît que tous les jours il y avait une nouvelle version mise à jour du truc parce que ils bossent tout le temps pour.
Bon les gars, les nouveautés.
Ça déconne pas quoi.
Il y a plus de numéros de version que dans Chrome ou Firefox. Bon, mais les gars, version 47, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ouais, mais, enfin, on rigole, mais McLaren, je sais pas, ça a pas fait une grosse impression quand même. Ah, oh, c'est que des essais. Voilà.
Oui.
Pas d'inquiétude, tout ça, mais enfin, bon, c'est quand même pas, ça a pas l'air génial. Enfin, bon, Button, lui, ça fait de toute façon 1 an et demi que, de toute façon, il sait même plus ce qu'il fait. De toute façon, il sait plus ce que c'est, sa voiture. Il y a 4 roues, il y a 2 roues, je sais pas.
J'arrive. 800 plus. Chevaux ou 800 bœufs, on sait plus trop non plus.
On confond. Non, mais c'est vrai que... Bon, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est très difficile de tirer une hiérarchie, même si on peut après être plutôt rassuré ou moins rassuré. Par exemple, Ferrari a quand même été relativement fiable à ce niveau-là, à part le dernier jour à Jerez, mais bon, c'était De La Rosa, donc
Ferrari,
c'était
sans
doute le chat noir.
À Ferrari, on a évoqué les problèmes de surchauffe.
Ouais, mais apparemment,
en dehors de ça,
en tout cas, sur la première journée de Massa, il me semble que c'était plus la surchauffe du pilote justement dans
ouais,
le baquet,
ouais.
Plutôt que la surchauffe de l'électronique ou
s'en
du moteur.
Ça.
On s'en fout. C'est vrai. Pilote,
ça leur donne envie de finir la course plus vite. Mais sinon après il y a Lotus qui a l'air plutôt performante, mais par contre
qui a l'air rapide
mais par contre qui a pas l'air super fiable, en tout cas quand c'est Raikkonen. Voilà.
Alors Lotus qui est pas fiable ou c'est Raikkonen?
C'est vrai que le premier jour à Barcelone, j'étais comme ça devant les chronos, mais il fait que des relais de 2 tours, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'après le lendemain, on a appris que c'était un problème de télémétrie. Le lendemain, après, il y a eu un problème de boîte qui l'a bloqué toute la matinée. Enfin, résultat des courses, il a fait 87 tours, enfin, c'est un des plus petits totaux des 4 jours. Bon, à côté, Grosjean a pas eu de problème majeur, ça c'est très difficile de lire. Après,
tu
as signé
que c'est un casseur de voiture? Ouais.
Ah, moi, je signe rien. Ouais, je
monsieur veut
rien.
Pas se faire insulter sur Twitter.
Non, mais personne ne me suit sur Twitter.
ce serait, voyons.
Donc ça n'a aucune, importance. Non, mais après Mercedes, alors Mercedes c'est un peu éteint allumé quoi, c'est on sait pas trop. Oui. Un jour ça marche, l'autre jour ça marche pas du tout, enfin ils font
Bah c'est-à-dire qu'ils alternent 10 tours par jour, oui, voilà. 250 parce qu'il faut rattraper la veille.
Mais au final, ils s'en tirent bien, ils sont toujours dans les parmi les premiers dans les classements de fiabilité quoi. Quelque chose d'impressionnant par contre, c'est Williams qui présente sa voiture le mardi, oui. Qui fait deux simulations de course le mercredi, enfin le jeudi plutôt. Bon, c'est plutôt intéressant. Après, on connaît pas les programmes, de toute façon,
très bien, le Williams.
Ils ont décidé d'inverser par rapport aux autres, mais c'est vrai que c'est quand même encourageant de pouvoir déjà réussir en plus une simulation de course à deux jours après le lancement.
Enfin
de la voiture.
Après, je me souviens que l'année dernière, Red Bull aussi avait fait une simulation de course assez vite. Et au final, arrivé à Melbourne, ils ont mis du temps à trouver la bonne formule, avaient sorti. En même temps, ils avaient sorti le dernier jour leur échappement secret qui marchait pas encore. Donc bon.
Mais après, est-ce que c'est pas non plus lié au fait que comme ils ont beaucoup roulé avec l'ancienne voiture la première, enfin ils ont roulé avec l'ancienne voiture la première semaine, est-ce que la simulation est pas non plus pour but de comparer un peu les domaines avec, enfin les données avec des programmes sensiblement identiques en faisant des longs relais pour notamment voir les pneus, ce genre de choses quoi.
Mais surtout, est-ce que peut-être la Williams de 2013, enfin a un châssis qui est très très identique, qui est quasiment le même et que finalement tous greffés. Et sur la 2012, ils avaient pu mettre plein de pièces de Trumbull de 2013. Oui. Arrivé,
ils avaient déjà la micro-boîte,
mais
hein,
même
l'an dernier.
Il y a deux ans aussi.
C'est hallucinant, et franchement, c'est hallucinant l'arrière de la Williams. Tu la vois la première fois, tu regardes
l'arrière de la Ferrari.
Il manque du carbone, là, il devrait y avoir plus
l'arrière
de
Ferrari,
c'est plus gros,
aussi,
non,
c'est assez énorme. Si bien que, enfin, le diffuseur final, il fait toute la largeur de toute la voiture, ce qui, généralement, t'as toujours au milieu un truc qui est de la boîte de vitesse ou quelque chose. Alors que là, tu vois l'endroit où la boîte de vitesse s'arrête et il y a encore du diffuseur derrière. C'est assez impressionnant.
C'est Ferrari, monsieur.
Maquet.
Et alors, sinon, pour les pneus. Alors, ils sont plus souples normalement, hein. Est-ce que on va encore avoir son droit à ce drame des pneus Pirelli en 2013?
Non, les écuries vont s'y habituer comme chaque année. Enfin, ça va être la galère quoi. 3-4 courses parce qu'on sait que l'Australie c'est toujours très abrasif. Moi, je me souviens que la première année avec les slicks. En 2009 avec quand c'était encore les Bridgestone, bah quand il y a eu Brown et tout ça, c'était un peu le bazar, mais c'est vite rentré dans le rang parce que les écuries s'habituent, ça va faire comme l'année dernière, et l'année prochaine, il faudra encore modifier les pneus, les faire encore plus tendres.
Enfin un moment
Oui,
ça va être des pneus en mousse, quoi.
Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est sur la philosophie. On le voit d'ailleurs dès le Grand Prix Melbourne. Enfin, de toute façon, déjà dès les 4 premiers Grands Prix, ils auront utilisé tous les types de pneus auront au moins été utilisés une fois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à Melbourne, où parfois on a critiqué le choix des pneus un peu trop conservateurs, là, ils ont vraiment foutu à fond parce qu'ils ont mis les super tendres et les médiums, je crois. Je te rappelle l'an dernier quand même. C'était un peu timoré dans certains choix. Là, ils sont agressifs.
Enfin, un dernier petit point sur les essais. On a parlé de leur localisation. Parce que c'est vrai que la semaine à Barcelone, elle a été plutôt fraîche. Alors pourtant, ils vont habituellement en Espagne, justement, parce qu'au mois de février, normalement, les conditions sont plutôt bonnes.
En fait, on va en Espagne parce que c'est le meilleur compromis pour rester en Europe, donc proche des bases des écuries, donc pouvoir amener régulièrement des pièces et compagnie, tout en étant dans un coin chaud et en Europe, si tu veux trouver du chaud, c'est plutôt l'Espagne qu'il faut aller, quoi.
Au mois de février, oui.
Mais c'est notamment l'explication qui a été donnée par Pirelli sur les dégradations des pneus, c'est de dire pour le moment faut pas tirer de signal d'alarme, d'ailleurs même les pilotes l'ont dit, les températures sont trop froides, par cette température là il y a un phénomène de graining qui fait que les pneus se dégradent très vite. Voilà, oublions pas que c'est des pneus qui sont conçus pour travailler dans une fenêtre précise, dans une fenêtre de compétition et compagnie, et que là on est clairement pas dans la bonne fenêtre quoi.
Enfin la fenêtre, ils l'ont quand même élargie. Quand tu regardes l'année dernière, c'est une fenêtre de plus ou moins 5 degrés par rapport à... Enfin l'année dernière, ils avaient pas donné les fenêtres, ils avaient donné la température optimale. Ce qui est... Mais quand tu regardes la fenêtre cette année, c'est 25 ou 30 degrés. Donc si t'arrives pas à être dans la fenêtre, c'est quand même qu'il y a un souci.
Attends, c'est un défi pour Mercedes.
Mais sur la localisation, on sait qu'il y a plusieurs projets. Il y a le Qatar qui a voulu. Il y a Bahreïn qui faisait à une époque. Bon, maintenant c'est le contexte politique n'y est pas. Il y a l'Inde aussi qui est candidat. Même Pirelli dit que ça serait peut-être bien d'aller à Abu Dhabi ou à Bahreïn l'année prochaine.
En même temps, se préparer au froid, c'est peut-être pas un mal parce que l'an prochain, je vous rappelle, il y a le Grand Prix de Russie et ils veulent le foutre au mois de novembre. Non mais c'est vrai, ils veulent, c'est le promoteur à Sochi. Attends, mais ouais, on va le faire au mois de novembre. Non mais vous savez qu'à Sochi au mois de novembre, non, il fait super froid et c'est le, non, c'est le mois où il pleut le plus.
De Sochi se rappelle qu'à une époque Pirelli faisait des pneus pour Monaco où c'était des pneus slick et au fur et à mesure où tu roulais, ils étaient faits exprès. Il y avait des clous qui apparaissaient dans le pneu pour la partie neige. Donc voilà, les mecs ils regardaient l'étape, ils savaient que là par là il allait y avoir de la neige, donc ils avaient conçu des pneus qui étaient entièrement slick. Tu faisais les 20 premières bornes, ça s'usait, puis là à un moment donné commençaient à apparaître les clous au moment où t'étais sur la neige, puis quand tu sortais de la neige naturellement, oui, bah les clous sautaient et tu retrouvais un pneu slick.
C'est vrai que c'était malin, mais c'est vrai, hein, ils veulent le faire au mois de novembre, en fin de saison. Ouais, oui,
c'est bizarre voulez... quand tu regardes sur la carte, Sochi c'est à la hauteur de Marseille, quoi.
Ouais, ouais, c'est une station balnéaire, ouais. Hein.
Mais l'été il fait,
ils ont le même accent.
Oui.
Putain, j'essaie d'imaginer l'accent russe, c'est
l'été, il fait très doux, donc c'est pour ça, oh, l'été, ça serait parfait.
Tu tires le tout point. Je vais te servir d'un petit plus.
Il y a un peu de brésilien. Mais d'où ça te vient?
Donc voilà, ça c'était les actus principales, mais il y a aussi, comme d'habitude, les actus dont tout le monde se fout, alors qu'ils sont à égalité cette semaine. Il y en a quatre. On a Fab qui a voulu parler du calendrier. Et oui, on pensait 20 et finalement ça sera 19. Même si ça aurait pu être 20, mais ça sera 19.
C'est sûr ça?
Bah en tout cas, enfin ça n'a pas été officialisé, mais Bernie a dit qu'il y aurait que 19. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'annonce de la part de la FIA comme quoi il y aurait.
Si Bernie le dit, c'est que c'est vrai.
Mm. Oui, voilà, voilà, voilà. Mais après directement, c'est Bernie qui fait le calendrier, mais la FIA qui le valide et qui le publie officiellement lors d'une réunion du Conseil mondial. Donc là, pour le moment.
Mais ça devrait pas tarder, ça. Parce que je crois que à chaque fois le Conseil mondial au début d'année, c'est début mars, donc ça devrait pas tarder.
Ouais.
Non, puis là il y a une réunion FOTA en plus en ce moment à Barcelone, oui. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une réunion exceptionnelle juste après.
Ça va faire un gros trou au mois de juillet, mais
bah, bon. Ça c'est con, ils pourraient déplacer. Enfin, là c'est un peu tard. Du coup en fait c'est ça le truc, c'est que comme tout ça s'est fait trop tard, on peut pas redéplacer les deux grands prix avant pour changer la pause. Du coup ça va faire deux grosses pauses.
Ah bah oui, là en plus.
Mais ça va nous permettre de bien savourer l'approche du Grand Prix de Hongrie.
Ah, quel beau Grand Prix.
Et Fab, tu as aussi noté retour à Bahreïn.
Oui, non, mais Bahreïn, c'est toujours pareil, c'est les mêmes tensions, c'est sans doute pas dans les mêmes proportions, mais il va y avoir encore une fois ces questionnements sur l'opportunité d'aller à Bahreïn, sur l'intérêt d'aller à Bahreïn dans ces conditions, mais c'est surtout une situation politique qui ne change pas d'un iota. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant à souligner, quoi. Mais
surtout quand on est dans une phase critique c'est le début du dialogue pour la paix. Mais bon, visiblement, on a envie de parler, mais en même temps, d'un côté, on veut démonter le gouvernement de la part des révoltés, et puis du côté des révoltés, on déloge des camps terroristes qui ont des liens avec l'Iran pour dire qu'en fait, les manifestants sont liés aux terroristes iraniens. Enfin, voilà, on dialogue, mais en même temps, on continue quand même de se taper sur le coin de la gueule, quoi. Donc c'est peut-être pas effectivement le meilleur contexte encore pour le débat va forcément revenir sur la table.
Ouais.
Sinon Dino, tu as cité Mike Gascogne qui veut revoir le système de points. Comme si on changeait
mais
pas.
Mais non, mais parce
souvent.
Que ça, c'est quelque chose que moi je dis depuis des années. C'est vrai que il faut quand même. On l'a vu l'an dernier. Heureusement qu'il y a sa dernière course qui permet à Quartararo de passer devant Marussia, parce que fondamentalement, quand même, on peut pas dire que Marussia aurait mérité la 10e place sur la saison qu'ils ont fait. Ils ont fait une très belle saison, mais bon, Quartararo avait quand même suffisamment d'avance et avait quand même mieux travaillé sur la saison. Je crois que sur l'article, j'ai fait des comparatifs, des chiffres. Ben voilà, qui sont assez parlants en faveur de Quartararo. Donc ça aurait été une certaine forme d'injustice. Donc voilà, lui il parle d'un barème intégral.
Oui, mais l'injustice fait aussi
partie
du
sport. Oui, non mais je suis d'accord, mais c'est vrai que lui il parle d'un barème intégral qui se pratique d'ailleurs dans d'autres sports. En NASCAR, il y a un barème intégral par exemple. Alors peut-être, ou alors juste faire un classement spécifique pour l'élaboration du classement constructeur en tenant compte de la réalité plus que des meilleurs résultats. Enfin, bon, voilà, je trouve que c'est un débat en tout cas qui a le mérite d'être avancé, qui est passé un peu inaperçu. Il y a que Quartararo qui en parle, mais c'est vrai que ça mériterait peut-être d'être un peu rediscuté, quoi.
Non, Fab, Gus, non, vous voulez garder le même barème?
Je sais pas trop quoi en penser du Bahreïn, du barème. Parce que c'est vrai qu'historiquement on était déjà sur un barème à 6 pilotes qui marquent des points.
Oui.
Qui a été augmenté pour essayer de créer un petit peu de plus de suspense à 8 pilotes, puis 10 pilotes. On est dans une évolution à la hausse. Je sais pas si ce serait forcément très pertinent, mais effectivement, il y aurait cette récompense de la régularité, à la différence du barème actuel qui peut, surtout quand tu es une écurie qui est incapable de te battre pour rentrer dans les points, un barème à la meilleure place, puis même si tu rentres dans les points au point, bon, c'est pas fort. Puis enfin, bon, à mon avis, moi, l'intérêt, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'arrêter de limiter les gains aux 10 premières écuries quand il y en a 11, quoi. Enfin, c'est complètement absurde, quoi. Surtout qu'on sait très bien que les dernières, c'est quand même celles qu'on a le plus
mais
besoin.
Mais c'est ça, en plus, avec les nouveaux accords Concorde, parce que cette règle de la 10e place va être encore parce qu'on sait que c'est dans les accords Concorde actuellement, c'est la 10e place. Maintenant, les nouveaux ont été renégociés, on sait qu'il y a eu, ils intègrent aussi des statuts d'équipe, de titres sur les 10 dernières années, enfin tous ces trucs-là. Est-ce que cette règle de la 10e place va être encore en place? Est-ce qu'il y aura toujours la place du con, la 11e place, qui sera là en fin de saison, quoi?
Parce que fondamentalement, c'est ça, hein, c'est pour ça, hein, c'est parce que à la fin, quand t'es 11e,
c'est Mister Eleven.
Peanuts. Sinon, en cinquième actu. Alors moi, pour ma part, j'avais fait une news Fashion Week parce qu'on n'a pas parlé des nouvelles voitures quand même. Parce qu'il y a quand même il y a eu deux tendances. Alors, il y a eu deux tendances cette année lors de la présentation des voitures. Ah, il y a les équipes ne savent pas se servir d'Internet globalement. Quoi? Oui. On va pas revenir sur Mercedes. Ah oui. Encore beaucoup, c'est beaucoup focalisé sur Mercedes. Faut pas oublier par exemple que Force India, le site Force India au moment de la présentation,
le site Force India, il est à la masse.
Oui. Et donc la deuxième tendance, c'est qu'ils se sont tous échangés des pots de peinture. On ne sait pas. Pas toutes, mais un bon paquet ont changé leur livret.
Oui, d'ailleurs, Marussia n'a pas disparu. Acharten n'a pas disparu.
Elle revit. Ça s'appelle sommaire. Et donc voilà, j'avais appelé ça le moche pas moche, et tout simplement voilà, on aurait pu dire chacun. Alors sur des points de vue vraiment purement esthétiques, hein, on est bien d'accord, hein, ça comme on dit,
mais
ça ne fait pas
encore,
avancer la voiture.
Ça dépend, esthétique, il y a la forme, il y a la peinture, il y a différents degrés. En général.
Oui, voilà, il y a la livrée, la peinture.
Donc bon.
Oui, voilà. Franchement, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Arrête.
Non, mais voilà, tu définis comme tu veux, quoi. Mais au final, on veut que tu dises moche ou pas moche.
Comme un bulletin de notes du SAV, quoi.
Voilà. Tout simplement, pour chacun, lesquels ils trouvent moche, lesquels ils trouvent pas moche. Hein. Moi, à la limite, je peux commencer, parce que c'était pour moi. Puis après tout.
Pour une fois, vas-y.
Mais non,
sais, en fait, moi, c'est parce que j'imagine un autre gage. J'imagine.
Ça, c'est moche. Oui. Ce que tu viens de dire, ça, c'est moche.
Oh. Mais j'imagine un autre gage, c'est que on doit tous se taire et Shinji, il parle pendant 2 minutes.
Oh, la torture.
Oula. Oulala.
Arrêtez, vas-y. J'ai déjà des idées de sujets qu'il pourrait aborder. Arrêtez.
Non, du côté pas moche, il y a la Sauber qui est étonnante, mais c'est vrai que ce gris qui est un revival d'HRT, ça fait plutôt classe. C'est étonnant, mais c'est classe. Un petit billet aussi sur la Ferrari. Je sais que Dino, par exemple, au début, il aimait pas trop
mais en fait,
le noir.
Non, c'est pas le noir, c'est
ça
le blanc.
Sur le bas. Je trouve que
le
ça
blanc,
fait assez
joli. En fait, il y a pas plus de noir, mais le petit liseré blanc en bas de la caisse, vraiment là pour le coup souligne la présence du noir carbone en dessous, qui lui a son utilité. Le noir carbone, il y a pas de peinture à cet endroit-là, c'est plus léger et compagnie.
Oui.
Mais voilà, c'est ce petit liseré blanc qui, enfin, pour moi. Change totalement la ligne de la voiture.
Ouais. Jean-François Copé avait raison.
Voilà, c'est de la et en moche. Alors, je suis désolé. Il l'a dit, il l'a souligné, le violet. Je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la Red Bull, mais c'est pas que c'est moche, mais c'est comme la Renault qui avait une voiture qui était un peu multicolore il y a
la Renault et
3-4 ans.
Bon, elle était vraiment moche, elle. Hein.
Voilà.
Les couleurs étaient sympas,
voilà,
mais c'était mal à poser, quoi.
Oui. Une F1, c'est 2 couleurs principales, parfois 3. Là, je trouve que ça fait trop, quoi. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est intrinsèquement, qui est bleu, jaune, rouge, violet, il y a de l'argent, il y a du noir et du blanc. Et pour moi, c'est trop.
Mais
voilà.
En piste, ça fait joli, je trouve.
Après, c'est vrai que,
t'es dur, franchement.
Voilà.
C'est plutôt bien agencé pour le coup. Moi, j'avais un peu un doute parce que je me disais mais c'est bizarre. La présentation, ça avait l'air d'être du violet, effectivement collé sur du bleu. Là, tu te disais bon, niveau recherche.
Non mais attends, la présentation de la Red Bull, t'avais l'impression que c'était dans un
bar. Et le plus drôle.
Oui, c'est vrai aussi.
Ils ont fait une présentation Red Bull.
Oui, non mais.
Le plus drôle sur Twitter, c'est genre 5 minutes avant la présentation de la Red Bull. Je vais sur le site. Puis il y a déjà les trucs Infinity et tout ça. Et genre 5 minutes avant sur Twitter, je fais. Vous trouvez pas bizarre tous violés sur le site internet de Red Bull? Comme ça, tu vois, je pensais pas qu'il ferait ça. Donc voilà, ça c'est les, voilà, c'est les miennes.
Ah. Alors moi ça va aller vite. J'adore la McLaren. Franchement, la McLaren, il y a tout. La livrée, elle, c'est la même. Ça a beau être la même depuis 2007. Ça devient un classique en fait, un peu comme la livrée Marlboro quoi. Donc moi j'adore la McLaren. Toutes celles avec les nez cassés, j'en peux plus moi.
Mais c'est ça en plus, c'est clair que les nez cassés, on s'était habitué. Le fait de revoir des nez normaux cette année en comparaison, bah les nez cassés, ça soutient plus la comparaison.
Ouais. La Williams, elle est jolie aussi, je trouve. La Ferrari, malgré le fait que ce soit pas cassé, c'est moche, en plus avec le liseré blanc, etc. La Caterham, je trouve dommage qu'elle ait un nez cassé, sinon le vert, j'adore ce vert, moi.
Le vert, allez, à chier. Ah non, ah non. Non. Je comprends l'objectif qu'il y a derrière, c'est que la voiture soit moins sombre et compagnie. Mais ce vert, mais moi ça c'est pas trop le vert, c'est surtout qu'ils ont retiré tout le jaune.
Oui, ça oui, c'est vrai qu'ils auraient pu.
Le peu qu'ils l'ont laissé, ils l'ont laissé n'importe comment quoi. Genre le mec il se dit oh, bon, je vais en mettre un peu là, puis il a même pas pris le temps de prendre un peu de recul sur la voiture pour voir si c'était parallèle ou si ça avait un certain sens. Voilà. Tu dis je veux mettre un trait de jaune là, c'est bon, je me casse.
Sinon, bah, j'aime bien la Force India. Le reste, ouais, c'est moyen.
Il a des goûts classiques.
Ah oui.
Il faut pas que ça change. Donc, dis donc, on sait que t'aimes pas trop la Caterham.
Bah, la Caterham, non, mais, enfin, non, c'est, la Caterham, c'est, mais surtout, enfin, voilà, c'est le vert qui change, et puis, fondamentalement, c'est une voiture qui reste quand même pas mal dans sa configuration de l'an dernier, enfin, avec le nez cassé et compagnie, donc, dans l'allure générale, la comparaison avec les autres, enfin, voilà, c'est, pour moi, c'est aujourd'hui la voiture la plus moche du plateau. Même si je trouve qu'il y a ce qui est très intéressant cette année, c'est quand on regarde les pontons, je trouve qu'il y a un vrai effort, plus que les échappements d'ailleurs, il y a un vrai effort sur le dessin des pontons, sur la manière dont les pontons vont aider justement à exploiter au maximum les échappements, et j'aime bien le dessin des pontons de la Caterham, parce que voilà, on voit vraiment la ligne du ponton se dessiner, voilà, c'est assez joli, mais en dehors de ça, il n'y a rien qui me plaît dans cette voiture. Non, sinon, il y en a une qui me... Je suis incapable de dire si je l'aime ou si je l'aime pas, c'est, pour moi, c'est un intrus. C'est la Marussia. Ça a pas l'air d'une Formule 1. Ça a pas l'air de cette année. Elle a l'air plutôt efficace. Ça a l'air bien fonctionné. C'est théoriquement ce à quoi devraient ressembler les Formule 1 aujourd'hui. C'est parce que, aujourd'hui, eux, ils ont que les moyens d'interpréter le règlement tel qu'il est écrit. Ils ont pas les moyens des autres de l'interpréter tel qu'il est pas écrit. Mais voilà, après, je suis d'accord. La McLaren a toujours ce petit côté sympa. J'adhère pas à la Mercedes, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans la Mercedes. Et c'était pas Lewis Hamilton, je rassure les gens. Mais puis moi j'ai toujours un peu d'affection pour les Toro Rosso. Voilà, je trouve que les Toro Rosso ont toujours un petit truc, des pontons bien dessinés, ils ont toujours des petites astuces qui les rendent assez jolies. Voilà, c'est vraiment une voiture que je prends beaucoup de plaisir à regarder en début d'année et cette année encore, donc voilà.
Pam?
Bah, moi je sais que beaucoup de gens l'aiment pas ou n'apprécient pas, mais j'apprécie la livrée de la Lotus, moi. Je trouve pas que c'est laid du tout, au contraire, je trouve que c'est plutôt joli. Enfin, c'est pas des couleurs qui vont pas ensemble, je trouve pas que le rouge soit particulièrement mal positionné. Donc moi j'aime bien la livrée. Bon, après le noir, c'est en même temps très classique, hein, ça marche toujours. Mais
en fait,
voilà,
le rouge sur la Lotus, il manque un petit ton de d'or en fait au niveau des droits arrière, que ça reproduise le motif qui est sur la boîte à air, où t'as du rouge et t'as l'espèce de trait doré pour faire le motif, et ça c'est, rien que ça arrangerait un peu mieux, un peu plus le truc.
Bon, sinon après oui, la McLaren, mais encore que je sois pas non plus enfin très très fan, mais oui, la McLaren est belle.
McLaren cette année, ils ont déchiré leur présentation quoi.
Ouais.
C'était ça,
ah ouais,
c'était
bien,
efficace.
C'était bien,
ouais.
Déjà
voilà.
Ça marchait. Déjà,
oui,
voilà.
Ça marche. Non, mais oui, France, Ferrari, ils ont fait quelque chose de beau, mais moi j'étais un peu gêné en voyant la présentation de la Ferrari, je me disais putain, mais
c'était trop grandiloquent.
C'était grandiloquent.
Ah, mais en
il y avait une débauche de moyens, puis ça faisait.
Le pire, c'était même pas devant les journalistes. Il y avait
puis
pas de journalistes.
Puis ça faisait vieux, enfin ça, les présentations d'il y a 10 ans, quoi. Voilà, Red Bull. Bon, on avait l'impression que c'était dans une boîte pas très nette. Mais Mercedes, on aurait pu. Enfin, Mercedes, moi surtout, c'est la présentation de la voiture où tu parles plus du téléphone portable que de la bagnole. Moi, c'est désolé, mais à un moment donné, on est là pour voir une voiture, pour voir Lewis Hamilton. Faites-nous quelque chose de bien, quoi. On a rien à foutre qui se prend en photo avec un BlackBerry.
Oui.
Qui prennent son chien en photo avec le Blackberry.
Ah, son chien.
Et je sais pas si vous avez revu, mais il a dans l'heure
cette année
s'écoulé, il en a remis des photos de son chien sur Twitter.
Moi, je vous le dis, cette année, vous allez en entendre parler de Roscoe.
C'est l'année de Roscoe.
D'ailleurs, la voiture de Sébastien Vettel s'appelle Roscoe Killer. Il attend le grand prix pour que Roscoe arrive sur la piste et claque.
Ce serait bon, n'empêche.
Dommage qu'on roule plus en Turquie.
Donc voilà, c'était tout pour les actus de cette semaine. Comme quoi, il y avait de quoi faire. Non, non, j'oublie. J'ai fait oublier. Celle de Gus Gus. L'actu la plus significative pour toute la saison de F1. Celle qui va déterminer toute la hiérarchie de la saison de F1 cette année. Hein. Donc on rappelle, ce n'était pas sur une Liana, hein. Liana, c'est... Si, si, justement, oui. Hein. Une, sur cette fameuse Suzuki Liana, Lewis Hamilton a battu Sébastien Vettel dans Top Gear.
C'était juste pour faire un clin d'œil à Top Gear, parce qu'on n'en avait pas parlé encore.
On a d'ailleurs appris que Keke Rosberg était homosexuel.
Pardon. Non, parce que... Putain, j'ai déjà utilisé mon gars.
Ouais, quoi. Non, on a Lewis Hamilton, enfin, il y avait une histoire de... d'ailleurs, qui... Top Gear est une émission un peu décalée. Ils ont ouvert l'émission en parlant des freins à main, en disant qu'il y avait certaines voitures qui avaient un bouton maintenant pour faire le frein à main et qui disaient, bon, bah, le frein à main, quand même, voilà, le vrai frein à main, tu prends vraiment à la main, ça a quand même quelque chose de spécial. Et ils ont commencé un peu dériver sur le côté phallique du frein à main. Donc, bon, ils en ont parlé avec Lewis Hamilton et Lewis Hamilton a raconté que, à l'époque où ils faisaient équipe avec Nico Rosberg, ils allaient à une course en Italie avec Nico Rosberg et c'était donc le père de Hamilton qui conduisait la voiture avec à ses côtés Keke Rosberg. Allez savoir pourquoi. Et bon, c'est vrai, moi, j'ai Keke Rosberg, je lui dis, ouais, mets-toi à côté passager, je vais conduire. T'imagines les gars, le mec. Et donc il explique qu'en fait son père, pour penser être un bon pilote et qu'en plein milieu d'une ligne droite sur une route de campagne, à un moment donné où il y avait un petit dégagement sur le côté, Keke Rosberg, le petit farceur, a tiré le frein à main. Donc du coup la voiture là, le père Lewis Hamilton s'est rendu compte qu'il n'était pas si bon pilote que ça. Et donc Jeremy Clarkson, le présentateur, en a déduit que en fait Keke Rosberg cherchait à séduire le père de Lewis Hamilton. Donc avec la moustache et cette anecdote, Keke Rosberg était un village people. Donc...
ça cache quelque chose.
C'est louche.
Donc rappelons que Keke Rosberg a un fils, même si nous ne le voyons pas souvent.
Enfin bon, tout ça pour faire un clin d'œil au fait que Top Gear soit arrivé sur la télé française. Enfin, soit...
Oui, c'est vrai.
Soit...
disponible en clair.
Enfin, oui, gratuit, mais gratuit, dégradé aussi, parce que... Sans parler des pubs, parce que ça, bon, y a aucun souci à faire ça, mais les traductions sont pas terribles. Et surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais un épisode, ça dure 60 minutes, et ils en diffusent que 55, c'est-à-dire qu'ils coupent des passages, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que, je crois, il y a un ou deux mois, il y avait dans Top Gear, dans l'émission, il devait y avoir un sujet d'un petit quart d'heure sur Senna qui a été complètement coupé, quoi.
En rappelant que c'est sur RMC Découvert.
Oui, qui fait donc un superbe travail avec Top Gear.
Donc là, voilà, enfin, c'était la fin des actus. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer cette semaine? Parce que j'ai envie de dire, parmi les quatre actus, si on fait un sondage, on sait déjà qui va gagner. Ah, vous avez été 3000 à voter, donc c'est bon, on sait qui va gagner.
Bah, on fait le sondage sans cette actu-là.
Oui.
On les aura bien feintés, là, comme ça.
Non, mais on peut faire le retour du Jedi, le retour de volant.
On peut aussi faire un sondage sur les équipes en forme. Enfin voilà, c'est après les essais de Jerez et de Barcelone, quelles sont les équipes voilà
qui ne cachent pas son jeu quoi.
Et on pourra en refaire un.
Ah bah ça serait bien.
On pourra en refaire
un dans 15
jours pour le prochain mag pour voir comment justement ça a évolué après la dernière semaine des essais de Barcelone où là on devrait voir un peu plus de choses.
Donc on va vous proposer comme question. Moi j'ai envie de dire. Suite aux essais de Barcelone, suite aux premiers essais de Barcelone, quelle équipe ne cache pas son jeu? Messieurs, on va passer aux citations.
Ouais, donc alors moi c'est une citation de Lewis Hamilton. C'est pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'il a dit « À l'heure actuelle, nous ne cherchons pas des victoires, nous espérons obtenir des points et entrer dans le top 10 ». Ça m'avait un peu fait rire, effectivement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Un top 10, oui, je pense que c'est un minimum, effectivement. Mais je crois qu'on veut pas prendre de risques du côté de Mercedes.
Ah, s'ils font pas le top 10, ouais,
Toto
un problème.
Wolf, il aura pas fait long feu, s'ils font pas le top 10.
Et Paddy Love aussi, qui arrive, visiblement.
Oui,
c'est pas vrai encore qu'on l'a pris dans la journée, même si...
On sait qu'il quitte McLaren.
C'est bon.
Il y a des gros sous-entendus comme quoi il pourrait rejoindre Mercedes.
Niki Loda qui lui souhaite bon vent dans sa nouvelle aventure.
Ça, c'est génial, quand même.
Sacré Niki.
Shinji, tu avais une citation?
Oui. Ce sont des essais. Nous pourrions installer un chasse-neige à l'avant si nous le voulions. Ça m'a fait rire parce que pour un certain nombre de gens, en fait, c'est déjà le cas.
C'est exactement ce que j'ai écrit.
Donc oui, pourquoi pas un double chasse-neige ? Ça pourrait être original. Oui. Mais ils en ont déjà un peu un. Et c'était un membre de l'écurie Caterham qui répond à une question sur la légalité du système d'échappement de la voiture. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, pendant les essais libres, les voitures ne sont pas forcément complètement légales. Il n'y a pas de souci.
Et
faut
juste si qu'elles aient passé les crash tests. Si c'est légal, enfin sur l'argument que ce soit légal ou pas légal, c'est sur la même chose. Quoi. C'est légal par rapport à ce qui est écrit dans le règlement. Personnellement, en cas, enfin moi, je vois rien qui contrevienne à ce qui à ce qui était écrit de noir sur blanc dans le règlement, mais effectivement, enfin, ça fait pas, c'est pas l'usage que la FIA veut que les écuries fassent des gaz d'échappement, quoi.
Voilà, c'est comme toujours, c'est pour le moment c'est légal sur le papier, mais il y aura sans doute des éclaircissements au procédé. Puis en plus, bon, enfin voilà, c'est une innovation qui est quand même assez rapide théoriquement. Enfin, techniquement, c'est juste une petite pièce de carbone à rajouter.
Ah
c'est
oui,
bon.
C'est le truc.
Après, c'est plus sur le réglage et la compréhension de comment ça fonctionne. Mais même Williams, ils ont indiqué que s'il y avait une perte, ça serait vraiment une perte marginale. Ouais. Williams qui a rusé d'ailleurs, parce que Williams, en fait, c'est pas une pièce, c'est deux pièces qui de loin en font une. Mais leur idée, c'est de dire non, nous, il y a pas de pièce du tout qui entrave la sortie du flux, puisqu'il y a une petite séparation d'un millimètre entre les deux pièces. Donc...
Ouais.
C'est un peu comme l'histoire de l'encoche l'an dernier avec Red Bull.
C'est exactement la même chose, mais ça, les écuries, la première écurie à avoir fait ça, c'était Ferrari en 2010. C'était au niveau des échappements, pareil, ils ont prolongé avec ces petites encoches l'ouverture pour les échappements pour le refroidissement. Et depuis, ça se met un peu partout, quoi. À chaque fois que t'as le droit à qu'une seule ouverture, bah c'est simple, tu mets une petite encoche et deux ouvertures en font plus qu'une. Bah du coup, j'ai une autre citation. La Formule 1 est devenue une vente aux enchères, c'est Raimé Aguersari qui dit ça. On en a déjà parlé, hein, de toute façon. Ce que je voulais plus souligner avec cette citation, c'est quand même le manque de recul qu'ont les acteurs de la discipline à en parler, quoi. Parce que...
Bourdet a dû apprécier cette citation de Raimé Aguersari.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Déjà par rapport à ça, effectivement, et mais par rapport au fait que, bah, comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours eu des pilotes payants, et il y en aura toujours, et c'est pas un phénomène nouveau, quoi. Oui.
Et heureusement qu'il y avait pilotes payants.
S'il y avait pas de pilotes payants, bah, on sera quoi, 4 ou 5 écuries, grand maximum, quoi.
Voilà.
En fait, c'est ça le problème. C'est surtout, il faut se poser la question, c'est la problématique de l'équilibre financier des équipes.
Mais d'ailleurs, moi, ça me fait beaucoup rire, c'est d'en entendre certains, et d'en voir certains qui aujourd'hui défendent des pilotes comme Petrov en disant, oh là, Petrov, il est plus en Formule 1 que des pilotes payants, et qui, il y a un an, gueulé parce que, oh là, disons, Trulli, il est plus en Formule 1 à cause de Petrov qui est un pilote payant.
Ah ouais, non, mais...
D'ailleurs, quand je parle de Trulli, je vais m'auto-transitionner pour une citation de Yarno Trulli, qui a déclaré récemment auprès du site crash.net, « Étant donné que l'écurie ne me payait pas, je n'étais pas déçu lorsqu'ils m'ont dit que je ne piloterais pas la Caterham, parce que j'avais déjà pu essayer la voiture et elle n'était pas différente de la précédente. » Voilà, donc c'est c'est bien de ça. Enfin, quand on connaît la saison 2012. Bon, il n'a pas franchement eu tort, quoi. C'est vrai qu'au début de l'année, on nous vendait un peu du rêve. D'ailleurs, Abitbull le dit, on nous vendait un peu des points et compagnie. Bah non, finalement, la voiture était aussi bonne que l'année précédente, quoi. Donc, ça traduit un peu ce débat-là, quoi. C'est qu'à un moment donné, bon, bah, quand vous êtes un pilote performant du calibre de Trulli, mais aussi aujourd'hui de Kovalainen, Glock et compagnie, est-ce que vous n'avez pas mieux à faire ailleurs que de traîner au fond des écuries, de fond de peloton, quoi. C'est...
Fab, une citation?
Bah, je l'ai faite, en fait.
Ah, t'es le Rosberg de l'émission.
Ah, oui, c'est vrai.
Oh là, je suis pas si
là. Ça fait un peu peur, hein.
Waouh!
Ah, déjà, oh Fab, on sait qu'on n'aura pas à lui donner le gage, parce que, apparemment, ça sert à rien.
On l'écoute pas.
Eh bien, on va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
pour ce répondeur. Rappel, hein, si vous avez des questions à nous poser, n'oubliez pas, on a une adresse mail, c'est répondeur@savf1.fr.
Oui, une petite nouveauté cette année, Shinji, puisque vous allez pouvoir nous envoyer des messages audio, hein, puisqu'on a mis en place sur le site du SAV de la F1, savf1.fr. Mais vous aurez aussi le lien dans l'article du site sur du SAV sur le site fanf1.com. Vous avez la possibilité très rapidement avec un micro de nous envoyer un petit commentaire audio qui sera donc utilisé plutôt que ce soit nous qui le lisions autant que ce soit vous qui le fassiez. Voilà, donc, si vous avez une question, vous allez sur le site savf1.fr ou fanf1.com et puis bah voilà, vous me posez une question. C'est pas forcément des questions techniques, hein, ça peut aussi être des débats. Cette année, on va essayer de mettre un peu plus en avant les débats dans le répondeur, des questions même sur l'histoire de la F1, enfin ce genre de choses, n'hésitez pas.
Voilà, et je lis, hein, si vous n'avez pas de micro, voilà, il y a l'adresse mail, hein. Ça marche toujours,
c'est vrai que le micro,
il y a aucun
ça vous
souci.
Permet vraiment d'entendre votre voix et puis ça donne un peu plus de relief à l'émission, mais voilà, si vous avez une question, vous n'avez pas de micro, ou si vous n'avez pas envie que votre voix soit diffusée et compagnie, voilà, bah vous nous envoyez un mail à répondeur@savf1.fr.
Et cette semaine, messieurs, eh bien, on a déjà une question. Hein, une question d'Adelin, mais c'est une question qu'il nous avait déjà posée en fin de saison. Hein, donc c'est pas vraiment une nouvelle, il nous la repose. Mais bon.
À noter qu'il nous l'a reposée, hein, c'est-à-dire qu'il nous a renvoyé un mail en cours de route en disant « Rappelez-vous, l'an dernier, j'ai posé cette question.
» Oui, avec le même intitulé. Oui, oui, tout à fait. Hein, avec cette question existentielle, à quoi servent les vibreurs ? Hein, c'est vrai, on dit toujours que trop de vibreurs égale hors-piste. Donc, faut les prendre, sinon on ne fait pas de bon temps. Mais si on les prend trop, on dégage de la piste. Attention, Adelin, il te manque quelques petits mots dans cette phrase. Je ne peux pas être méchant, mais il manque quelques petits mots. Hein. Il rajoute que, bien évidemment, il est heureux de revoir le SAV de la F1, que nous sommes des dieux pour lui, que nous sommes son soleil dans ses tristes journées. Oui, Adelin, tu te souviens pas d'avoir écrit ces mots. Mais, oui, tu les as écrits dans ta pensée, et moi, je les ai reçus par
télépathie. Vous voyez, c'est l'intérêt des messages audio, par exemple. Ces messages audio, Gigi aura du mal à vous faire lire des trucs.
Donc, grande question, à quoi sert?
On n'avait pas déjà eu cette question, déjà? Ça me dit quelque chose.
Je m'en serais souvenu. Alors, cher Adelin, avant tout, je dois dire que c'est un plaisir pour nous de te retrouver et par là même de constater que ta curiosité n'a d'égal que ta persévérance. Mais je dois confesser que c'est surtout un plaisir pour moi. Hein, en effet, je ne peux, à la lecture de cette question, que me rendre à l'évidence, elle m'était destinée. Alors oui, je sais, ça peut vous paraître un peu présomptueux, hein, étant donné l'absence formelle de destinataire, mais aussi parce que je ne suis pas titulaire d'un doctorat en vibrologie. Hein.
Est-ce que tu es rouge et blanc et plat?
On tu n'interromps pas. Non,
écoutez, c'est vraiment le comble de l'irrespect, on n'interrompt pas un répondeur. Genre. Incroyable. Bref, elle ne m'était pas destinée, mais je vais quand même étayer mes propos. Je sais que ton raisonnement a été le suivant, Adelin. Si je pose une question trop technique, elle finira entre les mains de Gus-Gus, ici présent, ce qui aurait certainement été le cas. Ou alors de Dino, mais sous le contrôle de Gus-Gus. Ensuite, tu t'es dit, si je pose une question plutôt comique, elle finira entre les mains de Dino, hein, ce dernier ne pouvant s'empêcher de répondre sérieusement à des demandes plus farfelues les unes que les autres, comme rédiger un article sur les animaux des pilotes de Formule 1 à la suite d'une incitation en ce sens durant un live de la première session d'essai hivernaux de 2013 à Barcelone, au hasard, hein, et qu'on peut retrouver facilement.
Et nous aurons cet article, je ne sais pas quand, mais il existera.
Préparez-vous. Donc finalement, Adelin, tu t'es dit, je vais poser une question pas du tout technique et bien chiante, et ça sera forcément pour Fabien. C'est gagné. C'est bien joué. Tu nous demandes donc à quoi servent les vibreurs. Alors, initialement, les vibreurs avaient un intérêt fortement pratique qui semble être à l'origine de leur mise en place. Ils étaient placés à la corde des virages où ils servaient à empêcher les pilotes de la couper et de passer dans la zone, souvent en herbe ou en terre, qui bordait les circuits. Ça avait deux intérêts. Le premier, c'était d'éviter que la poussière ne vienne à s'accumuler à l'endroit de la piste où les voitures passaient. Mais surtout, ça permettait en cas de pluie d'éviter que des flaques d'eau se forment à la corde des virages, ce qui abîmait les zones en herbe et en terre, hein, notamment quand les voitures passaient dessus. Ces zones maintenant l'asphalte, eh bien, cela pouvait causer un affaissement de la piste, une destruction progressive de la piste. Alors progressivement, les vibreurs se sont développés à un tel point qu'ils se retrouvent aujourd'hui non plus seulement à la corde des virages, mais bien souvent à l'extérieur, et même jusqu'à très loin après leur sortie présumée. Il est de coutume de dire que les vibreurs servent à délimiter la piste, or ce n'est pas vrai, puisque l'article 20.2 du règlement sportif du championnat du monde de Formule 1 indique, je cite, que les lignes blanches définissant les limites de la piste sont considérées comme faisant partie du circuit, mais pas les vibreurs.
Alors toutefois, tu l'as compris, si on regarde ne serait-ce qu'une minute d'un Grand Prix de Formule 1, on constate rapidement que les vibreurs sont des éléments essentiels que les pilotes vont chercher dans le but d'améliorer le plus possible leur performance et de réduire la distance globale de course. Alors les vibreurs en eux-mêmes peuvent alors apparaître comme des garde-fous. Hein. En effet, le passage sur ces dalles de béton, qui sont donc le plus souvent rainurées, produit une vibration caractéristique, d'où leur nom, vibration qui permet d'indiquer au pilote qu'il n'est pas loin de franchir le point de non-retour. Bien souvent, d'ailleurs, un passage au-delà du vibreur se solde par un abîmement de la voiture ou au mieux par un rappel à l'ordre sévère. Alors on constate quand même aujourd'hui que la plupart des vibreurs sont prolongés par une moquette synthétique, hein, l'AstroTurf, qui permet souvent quelques erreurs du moment qu'elle ne s'accroche pas à la voiture des concurrents. Donc malgré tout, si certains vibreurs sont très plats et donc assez peu dangereux, d'autres sont plus relevés et ne doivent pas être pris de manière trop abrupte sous peine de partir à la faute. Alors il y a certains vibreurs en revanche qui sont pour le moins infranchissables. Hein. Ils servent en général, lorsqu'ils sont très relevés, à marquer la corde d'une chicane afin de dissuader les concurrents d'y arriver trop vite. Hein. Alors l'exemple bien sûr le plus éloquent, c'est celui du Canada, hein, où les chicanes sont toujours avec d'énormes vibreurs, mais aussi on peut parler de Monza, hein, pour les deux premières chicanes, de Singapour ou même de la dernière chicane en Espagne. Pour finir, et à mon sens, il faut distinguer d'ailleurs entre les vibreurs qui délimitent les virages, hein, malgré tout, et les ralentisseurs qui empêchent les monoplaces de couper certains virages à vitesse excessive. Alors on pense bien sûr à Monza, on pense à Monaco, on pense à l'Inde avec les fameux boudins orange, puisqu'il là, il faut impérativement ralentir si le pilote manque son point de corde, parce que sinon il risque d'abîmer sa voiture, et de plus il ralentit pour ne pas bénéficier d'un avantage. J'espère avoir répondu à ta question.
En Inde, il paraît qu'il les surnomme les Bouddhas.
Les Massas.
Et tu dois venir lui caresser le ventre. C'est l'objet d'un pèlerinage. Particulièrement, on va faire ses prières là-bas pour avoir un bac. Chandok aussi, mais bon.
Ça a pas l'air de marcher, tout ça. Hein.
Il croit de moins en moins aux forces de l'esprit.
Appelez-moi Dieu.
Eh bien, messieurs, on arrive à la fin.
Oh, on se fait un petit pour pas pour.
Ah oui. Il y en a un, oui.
Un petit pour pas pour. Alors le petit pour pas pour, c'est nous qui allons donner le thème, mais bien évidemment, ça s'inscrit dans le cadre du répondeur. Donc, si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez nous voir débattre, alors on avait déjà fait un peu cette formule-là l'année dernière lors d'une émission avec Fab et Gus Gus. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'était sur Herman Kilk. L'idée, ça va être d'opposer deux personnes sur un sujet et d'obliger ces personnes à prendre l'un des arguments pour et l'autre des arguments pas pour. Voilà. Et à la fin, on fera une petite synthèse. Alors, je te dis, je vais même pas te donner le sujet. Je vais te dire, tu choisis qui, tu choisis, toi inclus, qui va participer. Il en faut deux. Et toi inclus. Donc si tu veux te choisir, tu peux te choisir. T'es pas obligé, mais tu peux te choisir.
Oh, allez. Dino, on est les tauliers. Il y a un moment, faut qu'on, voilà.
Ah, mais moi, je connais la question, donc j'ai plus.
Ouais, mais tu l'as pas fait.
Donc ça serait pas juste.
Oui. Bah, je prends de Gus Gus.
Mais de quel droit, mais...
Mais parce que Fab, il a répondu à la question du répondeur, donc voilà.
Donc Fab, est-ce que tu pourrais dire, sans même savoir le sujet, qui va devoir défendre le pour et qui va devoir défendre le pas pour?
Pas pour Cindy et pour Gus Gus.
Alors messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end a eu lieu les Daytona 500. Et ces Daytona 500 ont été marqués par un événement non négligeable, puisque non seulement il y a eu la première pole d'une femme, mais aussi les premiers tours menés par une femme. Avec ce grand débat que cela suscite en ce moment, notamment autour de Danica Patrick, à savoir est-ce qu'une femme peut piloter en Formule 1, et non, voilà, quels sont les arguments du et comme tout le monde. Gigi, tu vas devoir nous expliquer que non, les femmes ne peuvent pas faire la Formule 1. Et toi, Gus Gus, tu t'en sors bien, tu vas devoir nous dire oui, les femmes peuvent faire la Formule 1, en sachant que, comme normalement Jennifer pourra peut-être participer à l'émission dans 15 jours, on lui donnera la parole.
Désolé, je m'excuse.
Donc, messieurs, voici le sujet. Est-ce qu'une femme peut faire de la Formule 1?
Bah non, parce que déjà, faut les voir, on voit avec une voiture normale, alors avec une voiture qui roule à 350.
Et sinon, t'as des vrais arguments?
Non. Sinon, non. De toute façon, elles ne peuvent pas rentrer. C'est bien connu. Comme dirait Jenson Button, il y a un truc qui fait que c'est plus compliqué pour elles de rentrer dans un baquet. C'est déjà serré pour un homme. Alors pour une femme, de toute façon, ce ne sont que des arguments comme ça. Hein. Je préfère le dire tout de suite, même si je ne les pense pas.
je passe sur ces arguments totalement sexistes que vient de nous exposer Shinji. Une femme qui a le talent nécessaire, et Dieu sait si c'est possible. Danica Patrick nous a montré à plusieurs reprises qu'elle ne faisait pas tâche au...
Oui, enfin, en même temps, en IndyCar, elle a gagné une course à Motegi.
Et donc, pourquoi, quel est le problème de gagner une course à Motegi? Qu'ont fait les autres pilotes pour gagner la course à Motegi?
Ce que je veux dire, c'est qu'on dit beaucoup de choses sur le niveau de Danica Patrick. En même temps, de toute sa carrière, elle a gagné une course. Faut peut-être pas surestimer
son niveau.
Mais
le but n'est pas de dire que voilà. Danica Patrick est une future championne en puissance, une future championne du monde ou championne de NASCAR. Le but est de dire que si elle a gagné une course, c'est parce qu'elle avait le talent pour le faire, ça montre donc qu'elle a le niveau nécessaire pour se battre au moins, sans pas forcément être meilleure que les autres, mais d'être à un niveau équivalent comparable pour concourir avec les hommes.
Ben encore faudrait-il qu'il y en ait qui soient au niveau. Tu remarqueras que le plus haut niveau actuellement, il y a Suzy Wolff. Suzy Wolff, elle est pilote de on sait pas quoi, elle dit j'aimerais être pilote de réserve. Donc ça veut dire qu'elle est même
Et ça, c'est s'arrêter à des cas précis, mais en tant que telle, une femme qui aura le talent nécessaire, le talent de pilotage, les conditions physiques, il y a peu de choses qui s'opposent au fait qu'elle puisse être engagée, au bien au contraire, parce que la femme est un événement, c'est un moyen marketing, c'est un moyen de faire du marketing, une femme dans le sport mécanique.
Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des soucis d'un point de vue musculaire sur la longue durée?
Il y a des physiothérapeutes qui permettent d'entraîner correctement une femme comme un homme. Danica Patrick a fait le Daytona 500. C'est pas forcément la course la plus physique en NASCAR, mais l'année dernière, elle avait fait une course comme Darlington, qui est un ovale très difficile, tellement qu'on appelle le circuit trop dur pour être maîtrisé, too tough to tame. Et elle s'en était bien sortie, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus.
Après, ne serait-ce aussi que pour les femmes, pour les questions de carrière, est-ce que ça ne risque pas d'être compliqué pour une femme? Puisque, enfin, il y en a certaines qui arrêteront, qui voudront bien arrêter un certain moment, on le voit dans certains sports, qui s'arrêtent pendant un ou deux ans, faire des enfants, et qui reviennent. On sait qu'en F1, partir un an, c'est
mais
quasiment
là, c'est,
partir à la retraite.
C'est le problème du pilote. Enfin, ça n'engage en rien les capacités d'une femme à piloter. Après, c'est son choix personnel à elle de faire des enfants, de s'arrêter et de reprendre, ou alors de faire des enfants après sa carrière.
Bon, là, je suis à sec. Hein,
ah, c'était chaud quand même. C'est chaud.
Voilà. C'est-à-dire que si je vais plus loin, je peux pas, parce qu'il y a une ligne rouge que je veux pas passer, donc
Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'était un... Pour commencer...
Ce sont toutes les mêmes, sauf maman.
Fab, une petite synthèse, Fab, de ce débat?
Ah, que dire?
Tu es plutôt pour ou pas pour?
Non, mais c'est une très bonne question, qui va plus loin que la simple argument sexiste auquel, malheureusement, Shinji a dû se cantonner,
C'est un peu l'histoire.
Ah, en fait. Non, ouais, alors après, il y a peut-être d'autres arguments qui sont un peu plus structurels par rapport au sport automobile. Hein. On a quand même un sport majoritairement d'hommes. Hein. Là, je pense qu'on peut pas tellement le nier.
Oui, mais là, voilà, c'est
des questions d'opportunité. Mais après, on peut se demander si foncièrement, les contraintes physiques n'amènent pas à des capacités peut-être un peu moins... à des problèmes de capacité. À mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de comparaison possible, hein, comme le disait Gus Gus dans le débat, physiquement, le travail sur le physique des athlètes a quand même bien progressé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je pense que c'est malheureusement une question d'opportunité, plus que
d'envie,
puis, de toute
peut-être.
Façon, c'est un débat, d'envie aussi, c'est sûr, mais c'est question d'opportunité,
que...
quoi, globalement.
On a parlé d'instinct aussi à l'époque, on a dit que les femmes avaient cet instinct, notamment l'instinct maternel, qui faisait que dans la prise de risque et compagnie, il y avait une certaine forme de retenue qui les rendait, c'est des arguments qu'on avançait, mais qui les rendait moins rapides, moins agressifs, justement parce qu'il y avait cet instinct de survie et de...
On dit la même chose quand un pilote devient père de famille.
C'est compliqué de tenir la position papour actuellement, c'est...
Bah oui,
Le truc, c'est que le jour où il y aura une femme qui aura le talent d'être en Formule 1, les portes seront loin de se fermer, au contraire.
Ouais.
Oui, c'est en réalité, oui.
Mais en plus, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Enfin, Danica, aujourd'hui, elle est en NASCAR. C'est derrière Dale Earnhardt Jr., c'est la plus populaire. Parce que, justement, elle a une énorme visibilité. Et puis, bah, c'est quasiment une déesse pour certains, quoi. C'est une femme pilote, quoi. Mais, Après, je pense que de toute façon, ce débat-là, on pourra pas le résoudre tant que fondamentalement, il y aura, on n'a jamais vu de femmes fondamentalement en Formule 1. On a vu passer, qu'on essayait des choses et compagnie.
On n'a pas vu sur la durée, en fait, c'est ça.
Elles ont eu des parcours spécifiques. Elles n'ont pas eu les mêmes chances que les hommes. Elles n'ont pas véhiculé dans les mêmes structures et compagnie. Donc, on peut pas savoir si une femme peut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des
dans
différences.
Dans d'autres disciplines, on a vu que ça. Justement, on a parlé d'Annika Patrick. Oui, pour rejoindre Gus Gus, il n'y a pas de souci. Michel Mouton en rallye, enfin, là où il y en a eu, il n'y avait pas de souci.
Mais après, je pense que c'est surtout dû aux contraintes. Je pense qu'après, ça dépend aussi des sports. Enfin, si dans la plupart des sports, il y a une compétition femme et homme, c'est aussi parce que il faut le reconnaître aussi, il y a des différences physiques, il y a des différences mentales, psychiques. On a parlé aussi de l'argument de la famille et compagnie. Il y a des différences qui font que une carrière sportive d'une femme, une carrière sportive d'un homme peuvent pas être pareilles, que la préparation est différente, que le corps tout simplement est différent. Il y a déjà des différences entre chaque être humain, mais entre sexes, il y a des différences et que aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est rendre service?
Un avantage pour une
femme.
Moi
j'ai envie de dire, est-ce que c'est rendre?
Puisqu'elles sont plus légères.
Oui, mais après ça dépend.
Non mais pour dire que ça n'est pas forcément positif. Quand on dit différence, c'est pas forcément positif que pour les mecs.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas rendre service aux femmes que de les confronter directement à des hommes qui sont déjà censés être les meilleurs. Aujourd'hui, il faudrait peut-être plutôt réfléchir à instaurer des compétitions féminines, à essayer de mettre en place des compétitions comme ça se fait dans le foot, dans le rugby et compagnie, où il y a des compétitions spécifiques où on oppose des équipes femmes et des équipes hommes. Enfin, voilà, chacun dans son sexe. Je vois pas pourquoi en Formule 1, on cherche impérativement. Chacun dans son genre. Mais je vois pas pourquoi en Formule 1, on veut absolument que les femmes participent au championnat du monde de Formule 1. On peut très bien envisager un championnat du monde féminin et un championnat du monde masculin où on n'aurait plus cette question de savoir est-ce que les femmes sont aussi capables que les hommes. Elles sont capables dans leur catégorie. Alors, on sait très bien qu'il y a eu des tentatives de match comme ça. Je me rappelle d'une tenniswoman qui avait répondu au défi d'un tennisman dans les années 70 qui avait dit je suis plus fort que les hommes et qui l'avait battu deux fois. Mais après, c'est pas forcément une réalité, quoi. Et fondamentalement, aujourd'hui, le tennis, par exemple, parce qu'elle l'a battu, n'est pas forcément devenu un sport avec les deux sexes mélangés dans les compétitions. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui c'est pas vouloir rendre service aux femmes que de tout le temps leur demander si elles sont capables de
faire
la Formule 1.
Mais est-ce qu'il y a un sport mixte vraiment à part la Formule 1?
Ouais. L'équitation.
Oui. Un sport, je dis.
voilà. Bonjour à nos amis chevaux.
Ça va faire plaisir.
Donc voilà, en tout cas, c'était un peu ce genre de débat qu'on aimerait avoir durant l'année. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets de débat, vous envoyez un mail au répondeur ou un message sur le répondeur directement via savf1.fr.
On arrive à la fin de l'émission. J'ai une petite annonce.
Ah
oui, vas-y.
Donc oui.
Bonjour, je m'appelle Pauline.
Messieurs, un peu de sérieux, on va parler quand même d'une institution. Là. Oui, donc c'est la 4e saison que se déroule le Fantasy F1. Alors qu'est-ce que c'est le Fantasy F1? C'est un jeu de management qui avait été créé à l'origine sur le site du SAV. C'est facile, le principe, vous constituez une équipe de 8 pilotes avec un budget limité et les pilotes, en fonction de leurs résultats dans la réalité, marquent des gains et vous font progresser au classement. Alors ce jeu donc est dorénavant indépendant du site du SAV, même si bien sûr l'affiliation n'est pas reniée. Donc je vous invite tous à venir vous inscrire et à participer à ce jeu, ça prend pas beaucoup de temps normalement, vous serez de toute façon prévenu par mail, tout ça. Donc vous vous rendez à l'adresse FantasyF1, alors Fantasy avec un Y à l'anglaise, donc FantasyF1.forumactif.com. Donc forum actif.
Vas-y, appelle.
Je appelle pas, merde. Je mettrai en lien de toute façon pour les feignasses. Forumactif.org, et donc là vous retrouverez un petit peu toutes les explications, le règlement, et vous verrez, c'est très intéressant. Voilà. Et donc ça lance officiellement la saison du Fantasy F1 pour ceux qui en doutent. Voilà.
Pour si jamais vous n'avez pas compris l'adresse, vous allez sur le site savf1.fr et il y a le lien Fantasy dans la barre de menu.
C'était 15 fois plus.
Le mettrai de toute façon en commentaire.
C'était une bien bonne émission de rentrée, messieurs. Ouais.
Profitons-en pour dire que la semaine prochaine, Nous allons organiser une émission spéciale jeu comme l'année dernière. Là, on l'a pas fait dès le début de saison parce qu'on voulait justement avoir le temps de vous annoncer et compagnie. Donc, il y aura une émission spéciale jeu qui sera probablement enregistrée le lundi 4 mars au soir. Voilà. Après, c'était pas forcément la date définitive, mais c'est plutôt la date vers laquelle on se dirige. Il y a déjà des candidats, mais il y a encore des places. On va prendre 4 candidats. Comme l'année dernière, ce sera une émission sur les principales actus de l'intersaison avec des petites questions autour d'une thématique qui seront développées autour d'un thème qu'on va laisser mystérieux, ouais. Qui sont développés tout au cours de l'émission, voilà, et bon, il y a pas, voilà, c'est pour la beauté du geste, pour revoir un peu l'actu et vous donner la parole. Donc, si vous voulez y participer, vous nous contactez sur l'adresse contact@savf1.fr. J'en profite notamment pour vous dire, faites bien attention aux adresses cette année, puisque cette année, l'année dernière, j'avais toutes les adresses en main. Cette année, il y a certaines adresses que j'ai et d'autres que Shinji a. Donc, voilà, quand vous voulez écrire au répondeur, utilisez bien l'adresse répondeur@savf1.fr. Quand vous voulez nous contacter pour n'importe quel sujet ou en cas de doute, vous utilisez contact@savf1.fr. Et pour le concours Ta Proposition, c'est Shinji.
Concours@savf1.fr.
Et d'ailleurs, le concours, on reprend cette année.
Oui.
Alors cette année, on va un peu changer le concours. Enfin, on va un peu changer le concours. On va le principe,
dans
c'est,
le principe
même.
C'est le même.
On va juste inverser les rôles.
Oui. Donc c'est à dire que des questions qui seraient passées avant,
ben,
elles ne passeront pas forcément.
Donc voilà, désormais c'est Shinji qui a le mail du concours. Donc c'est lui qui va voilà, c'est
donc
lui
c'est
qui va faire la question, c'est moi qui déciderai peut-être avec les auditeurs, mais bon, je suis pas partageur dans mes dans mes choix. Donc voilà. Donc pour le concours aussi cette année, on va essayer on essaie de mettre ça en place. On va essayer de vous faire gagner à chaque fois un lot après chaque émission d'après Grand Prix, donc sur l'année une vingtaine de lots. On va essayer de vous faire gagner un lot à chaque fois. T-shirt, casquette, bracelet, enfin ce genre de choses liées à une équipe, etc. Donc pour le moment, on n'est pas encore sûr que ce soit en place, mais quoi qu'il arrive, si ça se met en place, bien évidemment, le vainqueur d'Australie, de la question qu'on va vous poser dans quelques instants, sera récompensé d'un lot. Si ce système-là est mis en place pour toute la saison, c'est en cours de discussion. On vous en parlera dans les prochaines émissions. Et justement, la première question de l'année.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Proposition. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Nous avons un nouveau générique. La question, elle est tout simple. Vous avez jusqu'au le Grand Prix, c'est le 17, donc jusqu'au 19 mars pour nous répondre. La question, c'est quelle course, quel départ de course est commenté dans ce que vous pouvez entendre sur le générique. C'est une course de la saison 2012,
oh, c'est dur.
Vous rassure. Voilà, ouais. Si vous écoutez bien, vous avez trouvé les indices, voilà, quelle course est commentée.
Juste un truc, dis-nous, est-ce que ça a un lien avec la nationalité du générique?
Non, je peux te dire que non. Hein.
Non.
Sincèrement, si vous écoutez bien, c'est assez facile.
Juste pour moi.
Mais il faut bien écouter.
Moi, j'avais pas la question, je connais déjà la réponse, alors.
Donc voilà, donc on vous rappelle la question. Il vous suffit de deviner le Grand Prix de 2012 qui nous a servi pour les commentaires
parce qu'en plus,
qui sont sur le générique.
C'est franchement.
Oui, voilà, c'est un indice, voilà. Et donc, pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Vous pensez bien évidemment à nous vendre une question sur le Grand Prix d'Australie, voilà, enfin sur le début de saison, enfin voilà, une question qui est liée à la F1,
voilà.
Voilà, sur la F1 et le
sur la F1, Australie, sur l'Australie, sur le Grand Prix d'Australie,
pour qu'on puisse vous départager.
Et une réponse,
voilà. Et la réponse qui est avec.
Une réponse. On vous rappelle que le SAV de la F1, d'abord, c'est sur son site, tu l'as dit, savf1.fr, mais c'est aussi sur iTunes, c'est aussi sur Podcast France, et c'est là que je parlais des votes, parce qu'il a remis à zéro les votes, ce qui fait
c'est
qu'on n'est plus dans le top 10
bordel.
Du Podcast France. Hein. En plus, je veux pas dire, mais sur le top 10, tout confondu, c'est 15 votes. Donc si vous vous y mettez tous, hein, on peut finir premier. En même de hall, hein. Ça doit pouvoir le faire. En tout cas, on peut apparaître dans le top 10. Rappelons aussi qu'on est sur Pod Radio.
Oui, le créneau actuel, c'est de 17h à 19h
tous
les mercredis. Tous
les mercredis.
Donc là, pour le coup, vous avez sans doute eu l'émission un peu plus tôt que d'habitude. Généralement, c'est à 18h30. Mmh. Mais là, comme pour coller un peu à la grille de Pod Radio et qu'ils n'aient pas les émissions avec une semaine de retard,
d'ailleurs,
on a essayé de
vous
livrer l'émission plus tôt
sur
possible.
Pod Radio. Et dans ce cas-là, si c'est la première fois, bah, on espère que ça vous aura plu et que vous continuerez à nous écouter. Donc j'ai dit iTunes, j'ai dit Podcast France, j'ai dit Pod Radio. On est sur Facebook, il y a le groupe SAV de la F1. On est sur Twitter, il y a le modiel SAV F1. Je crois que c'est tout, hein, côté pub. Et on n'oublie pas, live oui, sur internet, c'est sûr. Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille.
Ouais, c'est la
le risque des podcasts.
Oui, mais non, surtout, le SAV de la F1, c'est gratuit cette saison.
Oui.
C'est un truc que je ne ferais pas pour la F1 cette saison. Allez, on vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez. N'oubliez pas, donc, la semaine prochaine, c'est l'émission spéciale de jeu. On vous dit à la semaine prochaine, les gars. Allez, ciao.
Au revoir.
Ciao.